Radio Courtoisie.
Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie, programme national. À Paris sur 95 MHz 6, à Caen sur 106, à Chartres sur 104.5, à Cherbourg sur 87.8, au Havre sur 101.1, au Mans sur 98.8, pour toute la France, l'Europe et l'Afrique du Nord sur le bouquet satellite TPS, et pour le monde entier sur le site internet tv-radio.com. Vous écoutez le libre journal de Serge de Bekech avec l'assistance de Victoria, diffusé en direct mercredi 21 janvier 2004 de 18 à 21h, en différé jeudi 22, dans la nuit de 2h à 5h et dans la matinée de 7h30 à 10h30. Ce libre journal est réalisé par Franck. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres, adhérez à notre association. Pour cette année, la cotisation minimum est de 40 euros. Elle comprend l'abonnement annuel au courrier de Radio Courtoisie. Envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Vous pouvez intervenir au cours de cette émission par téléphone au 01 46 51 0085, par télécopieur au 01 46 51 21 82.
Amis de la résistance, bonsoir. Vous savez, j'ai remarqué quelque chose, Victoria, qui m'avait échappé jusqu'à présent, comme quoi on a raison de réécouter les choses des millions de fois, c'est qu'on est entendu en Afrique du Nord.
Bah oui.
Oh, bah, je leur conseille d'écouter ce soir attentivement.
Ça va être intéressant.
Pas du voyage. Voilà, donc le programme de ce soir. Pierre Descaves, pour commencer, en fanfare, qui vient nous annoncer la grande réunion de Villeneuve-Loubet. Bernard Anthony, bonsoir Bernard. C'est
bonsoir.
Pour changer un peu les habitudes, parce que moi on me reproche d'inviter trop de gens de gauche. Donc j'ai décidé de... Pierre Goffman.
Oui, ça m'étonne pas.
Plus vieux militant Trotsko.
Bonsoir Serge de Bekech, bonsoir aux auditeurs.
Salut camarade Goffman, le pouvoir travailleur. Donc pour changer un peu, j'ai invité Bernard Anthony et Pierre Descaves.
C'est moi qui suis à gauche, lui est à droite.
À gauche, Thomas. Ah, oui.
Voilà.
Ah bah disons, t'es bien servi. Bon, Bernard Anthony, qui va nous parler d'actualité et de diverses choses. Ensuite, alors là, on changera d'univers, puisque on ne sera plus du tout dans l'ordre du politique. C'est joli, hein. Je me mets à parler
l'ordre
comme à la télé. L'ordre du politique, c'est beau.
Ça,
je recevrai François-Xavier de Villemagne, qui présente une particularité... comment dit-on déjà ?
Particulière ?
Oui, non, pas particulière.
Je croyais qu'on parlait comme à la télé.
Non, non, il y a un mot que j'aime beaucoup utiliser. Oxymoron, c'est ça. Il présente une particularité oxymoresque, c'est-à-dire qu'il est d'une part expert financier et d'autre part pèlerin. C'est un homme qui est allé à pied à Jérusalem en partant de Paris, parce que si c'était en partant de Bethléem, c'était moins rigolo, mais en partant de Paris, c'est quand même, on n'est pas rendu. Et il a fait un bouquin vraiment extraordinaire, dont je recommande la lecture, parce que d'abord il est très beau, il est très bellement édité, très joliment édité, avec des belles photos, et en plus le contenu est magnifique. Puis nous recevrons Christian de la Mazière, écrivain, journaliste et retraité de l'armée, qui nous parlera
Pourquoi encore un homme de progrès, et c'est vrai que ça commence à faire beaucoup.
Ouais, non, mais il a été socialiste.
C'est vrai.
Bon, alors, je demande le peuple, qui nous parlera de son livre, dont il a déjà parlé, mais j'aimerais bien qu'il m'en parle à moi, parce que c'est un très beau livre aussi, dans un autre ordre d'idées que celui de François-Xavier de Villemagne. Il s'appelle « Le rêveur blessé », qui est, non pas la suite du rêveur casqué, mais la suite des aventures de l'auteur du rêveur casqué. Et puis, pour terminer, je recevrai François d'Ormesson et Jean-Pierre Thomas, qui ont consacré un bouquin à un personnage que je ne connaissais pas du tout. Mais Bernard Anthony doit le connaître, parce que c'est un historien féru. Il s'appelle, en plus, c'est un Béarnais. Jean de Laborde, banquier de Louis XV et mécène des Lumières.
Non, je ne le connais pas.
Même pas.
Pas faire semblant, non.
C'est un Béarnais.
Je fréquente très peu les banquiers, même Béarnais.
Oui, mais enfin, lui, de toute façon, il est plus fréquentable. Il est mort en 94,
oui, je couperai
les guillotines.
Mais je vivais déjà dans une vie intérieure à cette époque-là.
Mais en fait, c'est un peu bien fait pour lui, parce qu'il a été un des mécènes des Lumières. Donc, à force de lumière des Lumières, il finit par se brûler. Ça, c'est certes, ça devait arriver.
C'est arrivé à beaucoup.
Voilà. Donc, Pierre Descaves, pour commencer.
Oui,
il n'a jamais.
Bonsoir aux auditeurs.
Il n'est pas un mécène des Lumières, lui.
Bon, ça dépend. J'ai quelques Lumières dans certains domaines.
Mais pas comme mécène. Alors, non, mais je ne veux pas dire qu'il est avare, c'est pas ça. Je ne pense pas qu'il ait beaucoup financé les Lumières d'aujourd'hui, par exemple. Est-ce que tu as envoyé de l'argent à Bernard-Henri Lévy, par exemple?
Bernard-Henri Lévy, non, malheureusement, il ne figure pas dans mes pauvres.
Bon, ben voilà, c'est tout, c'est ça que je voulais dire, rien de plus. Cette journée du Cercle National des Rapatriés, à quoi elle correspond? Quel est sa nécessité, en quelque sorte, parce que ça fait maintenant 40 ans.
44, puisque c'est l'anniversaire des barricades du 24 janvier 1960. Mais la raison, elle est effectivement beaucoup plus récente. On vient d'avoir cette ignoble année de l'Algérie où on a vu un président de la République française serrer la main de ceux qui ont massacré, qui ont tué, qui ont assassiné mes compatriotes. Et il y avait une grande rabia que j'avais au fond du cœur, et j'ai décidé donc, à l'occasion de cet anniversaire, de faire cette grande réunion avec les amis du Cercle National des Rapatriés. Et puis, il faut dire aussi qu'on est dans une période qui s'y prête. On est en période électorale et on voit revenir tout un tas de traîtres potentiels, de ceux qui ont aidé le FLN à tuer mes compatriotes. On les voit revenir et faire des promesses aux rapatriés. Alors ça, pour moi, c'est insupportable.
Ça fait un peu longtemps, peut-être, qu'il faut...
Oui. Oui, mais ils reviennent. Si encore ils avaient la pudeur de la fermer, ça irait. Mais même pas. Ça continue, ça revient, on revoit les gaullistes, alors que qui a été la cause de nos malheurs, si ce n'est les gaullistes? D'ailleurs, il y a trois partis politiques, c'est pas compliqué en France, depuis 45 ans, depuis que nous avons ramené le parjure au pouvoir, depuis 1959, 45 ans sont écoulés, 30 ans, 4 présidents de la République, 11 chefs de gouvernement de droite, 15 ans, un président de la République et 4 présidents de gouvernement. Tous étaient, les uns, la gauche, qu'il s'agisse du PC ou du PS, les complices du FLN, donc les complices de ceux qui ont massacré notre population, de ceux qui nous ont obligés à fuir, et qu'ils soient porteurs de valises, c'est-à-dire des complices indirects, ou comme le Parti communiste, des gens qui aidaient carrément sur le terrain le FLN, pour moi c'est pareil. Et puis il y a eu le grand mensonge, le grand parjure, l'homme qui nous a fait croire qu'il allait nous aider et qui n'avait qu'un seul but dans sa vie, c'était de nous faire revenir. D'ailleurs il disait les imbéciles de pieds noirs. Voilà comment il parlait des pieds noirs, le général de Gaulle, ce grand patriote. Alors tu comprends, Serge, et je pense que nos auditeurs vont comprendre que la rabia qu'on avait au fond du cœur, il faut l'exprimer. Et c'est pourquoi nous avons organisé cette grande réunion avec des gens qui ont fait l'histoire.
Car... Oui, parce que ça ressemble un peu à une réunion du Club Méditerranée, hein. Enfin,
absolument.
Une version
de l'époque. Dorée,
c'est
de...
dans les Alpes-Maritimes d'abord.
Oui, mais là, en l'occurrence, ceux dont je veux parler, il y a Jean-Jacques Fusini.
Qui a été un des trois organisateurs de la journée du 24 janvier 1960. Et il nous fera, je lui ai demandé, c'est un bon ami, et il nous fera quelques révélations peut-être qui ne sont pas encore parues dans la presse.
Roger Olindre, je sais ce qu'il faut le présenter dans cette émission, c'est pas certain. Je trouve que moi on en parle mieux, ça vaut Roger.
Ah bon? Roger est un c'est le sous-officier le plus décoré de l'armée française. C'est un homme de courage et de volonté. Il a été de tous les combats. C'est un homme admirable et que personnellement j'admire.
Il y a Michel Jiménez.
Alors, Jiménez était peut-être le moins gradé de tous, puisque à l'époque, il était un des commandos Delta du lieutenant de Gueldre. Donc, si tu veux, il n'était pas un des dirigeants, mais il était un des acteurs. Exactement. Et il a pris la présidence du Cercle National des Rapatriés, qui est une tâche difficile, et donc il avait accès à cette grande réunion des acteurs de l'Algérie française.
Et puis il y a toi, alors, Pierre Descaves. Tu peux quand même te présenter un petit peu, parce que on te connaît, mais il y a peut-être des auditeurs nouveaux qui ne te connaissent pas.
Oui, mais se présenter soi-même, c'est toujours plus difficile que d'être présenté par quelqu'un d'autre.
Il suffit de dire la liste des condamnations et des années de prison.
Moi, j'ai fait mon devoir de tout temps, d'ailleurs, puisque j'ai déjà été volontaire en 1944 pour venir libérer ce pays, qui est le mien. Je l'ai fait. Ensuite, après que nous ayons battu l'armée allemande et occupé nous-mêmes l'Allemagne, je suis revenu sur Paris, j'ai fait mes études, et l'Algérie a été attaquée. D'abord, j'étais avec Poujade, parce que il fallait aussi nous occuper de la France, qui commençait à être elle-même en difficulté, et Poujade avait été marié avec une femme d'Algérie. Et donc, Poujade défendait l'Algérie française. Moi aussi, je défendais les petits commerçants, lui aussi, et donc j'ai fait partie du mouvement Poujade. Et Poujade a été... les troupes qu'il avait à Alger ont été les organisateurs de la malheureuse journée du 13 mai 1958. C'est plutôt le 19, d'ailleurs, que le 13. C'est quand le général Salan a appelé De Gaulle...
L'autre journée des dupes.
Oui, la première journée des dupes pour nous, la première.
Il y en a eu bien d'autres. Alors cette réunion, elle se passe donc à Villeneuve-Loubet le...
24 janvier.
Dans les Alpes-Maritimes, c'est près de Nice, non?
Alors c'est oui. Villeneuve-Loubet, c'est entre Antibes et Cagnes-sur-Mer.
Ça nous indique d'ailleurs ce lieu que donc la majorité des pieds noirs probablement est toujours dans la région, dans le sud-est.
Absolument. Nous avons 400 000 pieds noirs dans la région PACA, qui se répartissent sur Marseille, Toulon et Nice.
Bon, je suis sûr qu'ils sont nombreux à nous écouter sur Internet ou par satellite. On les salue.
Et puis, on n'a pas cité le président, l'invité d'honneur.
Alors, il y a une deuxième partie. J'ai divisé la réunion en deux parties. Le meeting de la mémoire, où n'interviennent que les acteurs du combat de l'Algérie française. Ensuite, nous avons un intermède musical avec Jean-Paul Gavineau, qui est le chanteur pied noir que tout le monde connaît, en tout cas tous les pieds noirs connaissent. Et après, nous avons ce que j'ai appelé le meeting de l'espoir. Car si jusqu'à présent, nous n'avons jamais pu présenter la véritable histoire de l'Algérie, car elle est toujours déformée. On a toutes sortes de gens qui viennent en parler, qui n'ont connu de l'Algérie, ou qui ont des fantasmes d'ailleurs, ce qui est encore pire. Il y a ceux qui l'ont pas connu et ceux qui ont des fantasmes. Eux, parlent de l'Algérie, ils ont le droit d'en parler. Mais nous qui avons vécu l'Algérie, nous qui avons vécu cette bataille, nous qui nous sommes engagés, qui avons, le Pierre Sergent, le capitaine Sergent l'a bien dit, qui avons mis notre peau au bout de nos idées, eh bien nous, nous n'avons pas le droit d'en parler. Eh bien, le 24 janvier 2004, nous allons parler. Et il se trouve que les pronostics généraux de gauche et de droite disent que Jean-Marie Le Pen...
On peut même dire les renseignements généraux.
Même les renseignements généraux, d'ailleurs, disent que Jean-Marie Le Pen a une chance, et donc nous, les pieds noirs, nous avons une chance qu'il devienne le président de la PACA. Et moi, je dis que si Jean-Marie Le Pen devient le président de la PACA, nous, les pieds noirs, nous aurons la possibilité d'avoir un terrain sur lequel nous pourrons nous exprimer. Je préconiserai diverses choses, notamment peut-être un musée de l'Algérie française, un musée de l'armée d'Afrique. Il ne faut pas oublier que c'est quand même l'armée d'Afrique qui a libéré la France, qui a permis que la France figure parmi les vainqueurs. C'est le maréchal Leclerc, à Tunis, c'est l'armée d'Afrique qui a défilé en 43. Après, en Italie, c'est le maréchal Juin, maréchal Pied-Noir, qui a fait que la route de Rome a été ouverte après les victoires de Cassino et du Garigliano. C'est de là de Tassini qui a reconquis la France et qui a été conquérir l'Allemagne. Et tout ça au champ de « c'est nous les Africains », il ne faut pas l'oublier. Or, après ça, comment avons-nous été remerciés par le parjure, par ce grand menteur? On a été obligés de partir, d'abandonner nos cimetières, d'avoir nos morts. Il y a eu des fusillés. On a eu 104 morts dans notre équipe de combattants. Et le président de la LIMAD a fait mettre leur nom sur le monument aux morts qui a été édifié à Perpignan pour les 4 martyrs fusillés de l'Algérie française. Tout ça, on l'oublie, on n'en parle plus. La France, elle s'est libérée toute seule. Oui, les Allemands, ils sont partis un jour, ils ont été fatigués d'occuper le pays, ils sont partis. Tiens, bizarre. Ben nous, nous étions là pour les chasser. Et ça, on l'a oublié. Et après, on nous a fait partir de chez nous, après avoir massacré. Tu le sais, mon père a été un de ceux qui ont été massacrés. Et je ne pardonnerai jamais, jamais, jamais.
Donc, cette réunion, 24 janvier, à Villeneuve-Loubet. Et pour avoir les renseignements pratiques, il y a un numéro de téléphone que Victoria va me passer et que je m'en vais donner. Non, c'est naturellement pas là sur ce document, c'est sur l'autre, ma chère Victoria. Mais oui, qu'est-ce que vous voulez? La vie est dure, mais c'est comme ça. Donc, on donne le numéro du Cercle National, hein.
C'est le président Michel Ximénez, c'est son portable, ou alors le portable de Monique Lartigue qui est sur les lieux. Il y a
voilà,
deux portables.
Alors, en tout cas, il y a un numéro que je vous donne, 06 08 67 61 61. 06 08 67 61 61. Vous pouvez donc réserver parce que.
Il n'y a que 150 repas possibles.
Et puis, vous pouvez avoir tous les renseignements que vous voulez sur les horaires de 9h à plus tard, à 19h probablement, oui. Puisque le meeting de Jean-Marie Le Pen est prévu à 17h.
On aura des stands toute la journée, les journaux amis. J'ai pas vu que le Libre Journal serait là, mais s'il veut venir, il nous fera un grand plaisir.
Mais en le tout Libre cas, Journal, pour aller à Villeneuve-Loubet, il faut qu'il commence à faire des économies deux ans avant. Là, on a été un peu
plus. Si tu as des invendus, tu peux les envoyer, je me ferai un plaisir les diffuser. Donc, toute la journée, nous avons des stands, nous avons des animations, nous aurons une messe solennelle avec un curé de choc, qui est l'ancien curé de Merzel-Kébir, qui s'appelle Balzano, et qui, sans doute, dans son prêche, ne fera pas dans la dentelle. Et puis, donc, toute la journée, il va y avoir et puis le plaisir de se retrouver, de se rencontrer, bon.
Merci. Merci beaucoup.
Ce sera donc, Serge,
c'est moi qui vous remercie.
Le 24 janvier, le jour même du 44e anniversaire
jour pour jour.
Des barricades. Et alors, je me précipite là-dessus, parce qu'aujourd'hui, 21 janvier, il faut quand même qu'au moins nous le mentionnions, c'est le 211e anniversaire de la mort de Louis XVI. Je pense que beaucoup de nos auditeurs le savent déjà. Oui. Mais savent-ils que c'est également, par un clin d'œil de l'histoire extraordinaire, le 80e anniversaire
de la mort du camarade...
Je vois que je ne suis pas le seul à le savoir. Et alors, ce que je voulais indiquer à ceux qui n'étaient pas à l'écoute de France Inter en début d'après-midi, c'est que ça a donné droit sur la radio d'État d'un pays démocratique à une demi-heure de propagande trotskiste. Ça m'a rajeuni, puisque vous faisiez allusion tout à l'heure, Serge, à mon lourd passé de gauche. Ça m'a rajeuni parce que j'ai entendu pendant une demi-heure Jean-Jacques Marie, qui est le dernier intellectuel encore au service de la secte Lambert, qui s'appelle aujourd'hui Parti des Travailleurs. Et vraiment, on lui servait la soupe pour expliquer une fois de plus combien Lénine était gentil, Staline était méchant, Trotsky aurait dû hériter, c'est bien dommage, et ils n'ont fait que du bien à la Russie. C'était littéralement la propagande trotskiste la plus grossière que j'ai entendue depuis longtemps.
Ben pour leur répondre, il faut lire, entre autres, le dictionnaire de la réplique, où il y a deux ou trois vérités.
Le dictionnaire de la réplique, on peut toujours l'acquérir au Centre Charlier, 70 boulevard Saint-Germain, et je le signerai volontiers demain à partir de 15h30.
Ouais, toi tu le signes volontiers. J'ai entendu dire qu'il y avait quelqu'un qui le signait pas volontiers.
Ah oui, c'est une autre affaire, mais n'abordons pas ce soir.
Bon, pourquoi on pourra parler, oui. C'est pas un secret, c'est pas un secret de famille.
Non.
C'est quelqu'un qui... Mais bon, restons-en là. Alors, restons-en là parce qu'il y a des choses plus importantes à dire, plus intéressantes. En tout cas, moi, je veux dire que j'ai vécu cette semaine, enfin samedi dernier, un moment de bonheur presque trop violent, on peut dire. Tout ce que j'aime était rassemblé place de la République, c'est-à-dire des femmes musulmanes en tchador tricolore. On peut pas arriver mieux, hein.
Et même franchement, avec des bonnets frigides
le drapeau par-dessus. De la République torchonnant la tronche de ces demoiselles, c'était le rêve inespéré de ma journée. J'ai regardé ça avec fascination, et il y en avait même qui tenaient un gigantesque drapeau tricolore. Pendant un moment, je me suis dit, ils sont gourés, c'est pas possible, c'est une manif du Front National. Non,
c'est le triomphe, Serge, de l'Algérie française. Voilà. Et c'est pour cela que Pierre Descaves est parti, mais je propose, moi, de mettre en chantier un vaste plan de reconquête de l'Algérie française. Parce que veulent-elles, que veulent-ils? C'est les droits des Français. Alors, l'intérêt serait qu'avec l'Algérie française, il resterait en Algérie, il serait donc au pays. Mais voilà, c'est le 13 mai 58 qui est se prolonger place de la République. Je dis ça peut-être avec un peu d'ironie, hein, mais...
Oui, j'avais compris.
Je le dis pour
certains. Enfin, il vaut mieux préciser que c'est de l'ironie. Avant, on avait une clochée, oui, c'est ça. Quand c'est de l'ironie, on cloche.
D'ironie quand même, parce que vous savez qu'on lit dans la presse algérienne des gémissements d'Algériens qui demandent quand nous allons revenir.
Oui, non, mais c'est une semi-ironie.
Moi, je trouve que l'actualité est intéressante. En ce moment, elle est pleine de choses plaisantes, agréables à entendre et tout. Par exemple, j'ai lu l'Express. Je me dirais, on n'est pas obligé de le faire. Moi, je le lis parce que je le reçois. Donc, je le lis. Toujours cette prise sur l'ennemi. Et j'ai lu un très curieux papier à propos... Je ne peux pas vous dire ce qu'il y a dedans parce que si moi, j'en parle, on va dire que j'ai mauvais esprit. Donc, je suis obligé de vous conseiller de fouiller les poubelles de votre quartier. Si vous trouvez un numéro de l'Express, le dernier, vous lisez cette page. C'est tout à fait intéressant. C'est à propos d'un événement considérable qui a secoué la France au mois de septembre, vous vous en rappelez sans doute, qui était l'incendie d'un collège israélite de Grigny. On a vu le président de la République, premier ministre, deuxième ministre, troisième ministre, quatrième ministre, l'évêque, l'archevêque, les cardinaux, les imams de ma sœur, etc., venir dire que vraiment c'était l'horreur totale, la France un pays antisémite, etc., etc., patin coup fin, on connaît la chanson, heure les plus sombres de notre histoire et autre chose du même métal. Et puis il y a un papier dans l'Express qui parle, je sais pas du tout pourquoi ils font ça, j'ai pas bien compris cet article, mais c'est curieux, ils disent que les policiers s'intéressent à des assurances qui auraient été souscrites la veille de l'incendie, c'est des trucs... Enfin, je peux pas vous dire autrement que lisez l'article. Je suis désolé de vous faire lire l'Express. Faites-vous le prêter.
Vous avez eu la complaisance de me le lire et, et j'ai encore dans les oreilles ces mentions répétées d'assurance, assurance.
C'était récemment, récemment modifié assurance, une assurance de 5 millions d'euros, quand même, pour une école. Non, je sais pas, ça doit être tout marbre et. Enfin, c'était bien, quoi, voilà. Donc, je vous dis, lisez ça. Et puis, il y a quand même la troisième information. On découvre que probablement, le. C'est pas sûr, mais le présumé amant. Passé de la nouvelle madame la préfète du Jura doit être d'extrême droite. Parce que j'ai écouté les informations hier, elle nous disait que la voiture du préfet du Jura, nouvellement nommé, avait explosé.
À Nantes et
que, à Nantes. Il s'en revenait de Nantes et donc il a, sa voiture a explosé. Et immédiatement, on a expliqué, le procureur a dit, voilà, alors le procureur, il, le procureur qui s'appelle, je vais quand même donner son nom parce que ça mérite d'être salué, il s'appelle Monsieur Huet, comme Jacqueline, mais en moins joli. Enfin, ça, je parle de ça pour les gens qui regardaient la télévision il y a 50 ans. Il ne fait aucun doute qu'il s'agit d'un acte criminel, a-t-il dit d'abord. Des prélèvements ont été effectués sur la carcasse du véhicule pour que nous puissions faire des analyses pour déterminer la nature de l'explosif. Donc, il savait déjà pas quel était l'explosif, mais il savait que c'était un acte criminel. Est-ce l'extrême droite? Des intégristes musulmans? Et alors, il disait une chose qui montre quand même qu'il devait déjà être un peu branché sur le fond du problème. Des jalousies d'ordre privé, point d'interrogation. Et puis aujourd'hui, on nous apprend qu'un monsieur qui a été arrêté, qui était l'ex de la nouvelle, etc. Ça, c'est, ça s'appelle en bon français la choumoune. C'est-à-dire, vous prenez un type qui est parfait, qui incarne vraiment l'intégration dans toute sa splendeur. Il est chef d'une grande école, il est élégant, tout ça. Il est, et puis, badaboum, on fait sauter sa voiture et on découvre que côté coulisses, côté cuisine ou côté alcôve, c'est peut-être pas exactement ce qu'on espérait. Voilà, moi je suis content. C'est parce que j'ai mauvais fond, faut dire. J'ai un homme méchant et je trouve ça rigolo. Alors, il n'y avait que ça à nommer comme préfet. C'était le seul qu'ils avaient à choisir. En, en cherchant un peu, ils auraient pu trouver. Non, apparemment non.
Je peux enchaîner avec un non-attentat.
Oui.
Puisque ça ne manque pas.
Encore un non-attentat.
Oui, l'affaire de Charm El Cheikh est encore dans tous les esprits. Et. On nous dit hier que les, la boîte noire que la technologie française a repêchée par 500 mètres de fond et qu'elle a remise solennellement aux autorités égyptiennes est, devinez quoi, totalement inaudible.
Mais on sait que c'est pas un, quand même un attentat.
Ah ben, moi, j'ai entendu comme un hiatus hier, on se contentait de dire que c'était inaudible. Et je me disais, je me demandais si on, par erreur, on avait remis ça plutôt qu'au procureur égyptien, aux autorités égyptiennes du tourisme. Parce que chacun sait que le tourisme égyptien connaît quelques problèmes, et chacun imagine les problèmes accrus qu'il connaîtrait, ce tourisme égyptien, s'il s'avérait que c'est un attentat, comme bien entendu la rumeur en cours déjà. Je
tout le monde a intérêt à ce que ça soit pas un attentat, c'est comme Toulouse. Donc, on sait pas comment l'avion s'est écrasé, on sait pas pourquoi, puisque la machine est inaudible et tout, mais on sait que c'est pas un attentat. Ça, déjà, le patron du service d'enquête égyptien, il est venu à la radio, il a dit, on est sûr que c'est pas un attentat. Pour le reste, on comprend rien du tout, qu'est-ce qui s'est passé. Voilà. Comme ça, on est au courant. Depuis le temps qu'ils nous disent que c'est pas un attentat. L'avion s'était pas encore écrasé, qu'on savait déjà que c'était pas un attentat.
Serge, comment voulez-vous que ce soit un attentat, puisque certainement en Égypte, comme en France, les aéroports et leurs zones de sécurité sont dans de très bonnes mains.
Alors, la blague à part, quand même, il faut, je crois qu'on peut arrêter d'ironie, on va arrêter la cloche. On publie dans le Libre Journal, et je ne crains pas de le dire, un document, les résultats, non pas d'une enquête, mais d'une révélation, sur ce qui se passe à Roissy et à Orly. Et alors, je vais vous lire simplement les premières phrases de l'article. Si vous avez envie d'en savoir plus, on va demander à Bernard Anthony, qui a lu l'article, ce qu'il en pense. Mais je voudrais lire les deux premiers paragraphes. 48 islamistes radicaux ont été identifiés au sein du personnel employé à Orly par les sociétés sous-traitantes chargées de la sécurité du site et de la manipulation des bagages. L'information confidentielle figure dans un rapport de la Direction centrale de la police aux frontières daté du 21 décembre 2003. À Roissy, selon une autre note de la même direction, datée de juillet, 30 musulmans fondamentalistes ont été repérés au nombre des employés ayant accès aux zones de sécurité, aux bagages et aux appareils. À ce jour, Sarkozy, pourtant du moins informé, et pour cause il a reçu des notes, n'a ordonné aucune mesure particulière d'éloignement de ces suspects. Voilà. Donc quand vous prenez l'avion, prenez plutôt le bateau, tiens, si vous voulez mon avis en ce moment.
Je peux citer le titre avant que... Excusez-moi Bernard, cet extrait du Libre Journal numéro 312.
J'allais le dire.
Les gens qui auront l'impression que c'est une information assez intéressante, bien sûr elle est exclusive pour le moment, n'ont qu'à envoyer un carnet de timbre à SDB, 4 place 36, 75 010 Paris.
Bernard, tu l'as lu cet article et tu prends souvent l'avion toi?
Oui, je prends l'avion souvent, je l'ai pris ce matin encore. Alors, c'est un article extraordinaire et je ne saurais que surenchérir. Je trouve d'abord le Libre Journal et je parle avec la fierté de celui que je dirige, c'est-à-dire Reconquête, mais je trouve que le Libre Journal est un des journaux magnifiquement complémentaires du mien et je suis toujours éperdu d'admiration devant les éditoriaux de Serge de Bekech, même si je ne suis pas toujours d'accord avec lui. Il nous est arrivé, heureusement, étant des hommes de caractère et d'intelligence, d'en découdre un peu, mais sans jamais se fâcher. Et je trouve que les éditos sont toujours très bons, mais cet article-là est tout à fait hallucinant pour les gens qui ne prennent pas l'avion comme moi et qui n'observent pas. Parce que ce matin encore, j'ai bien vu comment des femmes de ménage qui, elles, donc, ne vont plus au collège et donc ne seront pas interdites de voile. Et puis, même n'auraient-elles pas le voile, ça ne change strictement rien. Comment certaines peuvent être fort bien terrorisées? Comment on peut, comme le dit le rapport des renseignements généraux, leur imposer peut-être certains actes criminogènes? Alors, il y a des idiotos qui nous fouillent, si on a un trousseau de clé dans la poche, ils font enlever sa veste, etc. En fait, tout ça, c'est de la frime, parce que les dangers de terrorisme dans les aéroports, on sait par quoi ça procède, ça passe par un personnel immense qui se déplace facilement. Il y a des femmes de ménage dans les avions qui peuvent être terrorisées, on peut très bien prendre... Alors, comment se fait-il qu'on tolère encore qu'il y ait des dizaines d'islamistes, comme on dit aujourd'hui, hein, on sait ce qu'il faut penser de ce terme-là qui est ambigu, répertoriés, alors que M. Sarkozy donc promet de faire de Roissy l'aéroport le plus sûr du monde.
Le rapport dit d'ailleurs que les permanents syndicaux français de souche ont confié aux policiers qu'ils se trouvaient, ouvrez les guillemets, confrontés à une très forte pression des imams intégristes des entreprises travaillant sur les sites sur les agents féminins de confession musulmane. Ils expliquent que 50% des employés se sont mis à porter le hijab sur une sanction très pressante des imams intégristes de la plateforme de Roissy. Et le rapport de la police aux frontières ajoute: les récalcitrantes font l'objet d'insultes, de menaces, de discours vexatoires et de prêches, les exhortant à se voiler et à faire de même avec leurs filles. Et la conclusion, c'est, pour rappel, les femmes de ménage de la société X, et là il y a le nom de la société dans le rapport, mais je ne l'ai pas mis dans le journal, ont accès aux avions en zone réservée. C'est quand même extraordinaire. Alors il faut savoir que ce rapport ajoute que, Comment les islamistes s'introduisent dans ces milieux-là? Eh bien, ils s'introduisent par le biais de sociétés implantées au sein des aéroports. Et le rapport dit leur charisme est accru par l'importance des postes qu'ils occupent. En effet, le contrôle des organisations syndicales est pris par eux. Et ils parviennent par des pressions à la fois syndicales et religieuses à obtenir des postes d'encadrement, chefs d'équipe, qui leur donnent un contrôle total sur la vie de leurs adeptes. Nous sommes, dit le rapport, en présence sur le site de Roissy d'un système que l'on pourrait qualifier de mafieux, dans la mesure où la vie d'une partie des employés est contrôlée par des éléments radicaux, influant même sur le recrutement, pression syndicale, cooptation et quasi-obligation d'adopter les us et coutumes de cette population. Alors, si vous voulez un détail précis, lors du précédent défilé organisé par le Parti des musulmans de France, le PFM, lequel organisait la manifestation du 17 janvier, la, précédente manifestation contre la loi interdisant les signes religieux à l'école, les deux véhicules qui fermaient la marche avaient été fournis par un communiste qui s'appelle Michel Bousquet, fils de militant communiste en Algérie, porteur de valise du FLN, élu CGT, converti à l'islam et membre du Parti des musulmans de France. Et les deux voitures, c'était des véhicules d'Air France qui portaient le logo d'Air France sur le côté des voitures. On est dans la folie furieuse, là. Moi, je prends plus l'avion avant que ça soit nettoyé, ce truc-là, parce que c'est vraiment trop dangereux. N'importe quoi peut arriver. Il n'y a absolument aucun contrôle possible de cette situation. Ça ne veut pas dire que les 100 personnes qui ont été identifiées, en gros, sont toutes des terroristes en puissance, mais ça veut dire que n'importe quel terroriste en puissance peut sans aucune difficulté pénétrer ces milieux-là. Et les flics qui ont fait ces rapports expliquent qu'ils n'y peuvent, qu'ils ont eu un mal fou à faire ces rapports, d'abord parce que les gars se méfient, ils exercent une surveillance constante, eux, les islamistes de leur entourage, et d'autre part, ils changent sans arrêt d'affectation parce qu'ils appartiennent à des sociétés prestataires, des sociétés intérimaires, qui les font tourner. Un jour, ils sont à Roissy, le lendemain, ils sont à Orly, le surlendemain, ils vont ailleurs, 3 jours plus tard, ils reviennent. On n'a absolument aucune possibilité de contrôle. Les 5 vestiaires d'Orly et de Roissy ont été transformés en salles de prière secrètes, clandestines, alors que la direction de l'aéroport d'Orly a fait ouvrir 2 salles de prière officielles, destinées au personnel. Une destinée, 3 salles de prière. Une destinée uniquement au personnel et 2 ouvertes au personnel et aux voyageurs. Et ces gens-là, malgré tout, continuent à se réunir dans des salles de prière secrètes qui sont dans les caves ou dans les vestiaires. Je ne sais pas si on mesure la gravité de cette chose. C'est complètement hallucinant. Et visiblement, Sarkozy s'en fout comme de sa première culotte. Il préfère aller faire son numéro de numéro 2 qui est numéro 3 en Chine, aller raconter des bêtises sur les gens qui ont du sumo. Enfin, on vit vraiment dans un pays fou, hein, moi je vous le dis, de cinglés.
Il y a un petit détail quand même qui a dû charmer le militant chrétien Bernard Anthony, c'est que la CGT se plaint à Roissy de ce que ces islamistes se noyote la Confédération française des travailleurs chrétiens.
Oui, le CFTC. Voilà.
Oui, je crois que je vais peut-être étonner les auditeurs en disant que tout cela est affligeant, mais que cela ne me laisse pas dans le désespoir. Et je suis, comme toi Serge, grand lecteur de Léon Blois. Léon Blois attendait les Cosaques et le Saint-Esprit. Bien aujourd'hui, je persiste à dire que nous n'avions peut-être pas tort lorsque nous disions que l'islam était le remède de cheval qui pouvait réveiller la France. Nous voilà dans une prodigieuse actualité que nul ne prévoyait, sauf des gens très lucides, il y a 20 ans. L'émergence de l'islam, c'est fulgurant à l'échelle de l'histoire. Or, que constatons-nous aujourd'hui ? Nous constatons que nous avons été les initiateurs, et ça je crois que je parle avec fierté du mouvement que je préside, Chrétienté et Solidarité, les initiateurs, en parlant souvent du Liban miroir de notre avenir, d'une résistance donc à l'islam. Nous avons désigné l'immigration dangereuse, car le problème n'était pas tellement en soi l'immigration, puisque les Français ne faisant plus d'enfants, s'ils venaient à nous des Lituaniens, des Baltes, des Polonais, que sais-je encore, ça n'était pas bien grave, ça donne même d'excellents Beketch quelquefois. Alors donc nous avons eu le courage de désigner en quoi elle était principalement dangereuse. Et il y a d'autres choses dangereuses. Et voilà qu'aujourd'hui, tout d'un coup, avec effarement, un certain nombre donc, de responsables politiques, sociaux, religieux découvrent cela. Alors oui, dans la CFTC, je sais très bien, mais j'étais il y a très peu avec des militants CFTC qui s'inquiètent tout autant que ceux de la CGT. Ce que je constate aujourd'hui, c'est que il y a des réactions de milieux que l'on n'attendait pas. Alors, quelles sont les réactions ? Je voudrais les analyser pour montrer, de les analyser très vite, que tout ne va pas si mal dans ce pays. Il y a un peu de réaction. Un peu de réaction suite à l'inculpation, la mise en examen, comme on dit aujourd'hui, de M. Louis Chagnon, ce professeur d'histoire qui a raconté à ses élèves la véritable histoire du prophète Mahomet, qui ordonnance à la bataille des fossés, la décapitation de 900 chefs de tribu, de la tribu juive des Coréza. Bon, ce prophète est un guerrier, c'est un pillard, c'est un assassin, toutes ces choses-là sont sues. Alors, voilà qu'il est mis en examen, mais c'est la levée de bouclier, et la levée de bouclier vient, je lis la dépêche du midi, de la part de professeurs laïcs qui disent, mais enfin, c'est du révisionnisme, c'est du négationnisme, et cela, c'est dans la dépêche du midi. On se réveille donc à gauche. On se réveille donc à gauche, comme on se réveille dans la CGT, et il y a entre eux aujourd'hui des frictions considérables, y compris au sein de Force Ouvrière. J'étais, il y a quelques jours, avec un de mes anciens délégués de Force Ouvrière, qui parlait exactement avec cette inquiétude-là. Réveil aussi, donc étonnant chez, et heureux du pays réel catholique. Il y a de plus en plus une distanciation entre l'épiscopat et le pays réel catholique. On l'a vu sur la mobilisation du lundi de Pentecôte dont vous avez traité ici, mais évidemment quand on lit sous la plume de Mgr Ricard, porte-parole de président de la conférence des évêques de France, que la France vit une crise de transmission qui atteint le socle des valeurs fondatrices de la République, c'est astorde de rire.
Pourquoi ? Je vais répéter ça.
Oui, c'est le président de la conférence des évêques de France qui s'inquiète car la France vit une crise de transmission qui atteint le socle des valeurs fondatrices de la République. Quesaco, comme on dit chez moi, cet évêque-là, c'est fabuleux.
Mais Mgr Ricard,
qui
a peut-être bu un petit peu trop de Perdeau, non ?
En revanche, c'est Gérard Israël, dans le Figaro, qui titre « La France reste un pays catholique ». Au moins, lui, il s'inquiète, en tant que juif, de l'identité catholique de la France, qu'il commence à préférer, lui et un certain nombre d'autres, à une identité qui serait islamique. Tiens, tiens. J'observe aussi le réveil de l'intelligence, je ne dis pas intelligentsia, catholique. En la preuve année, ce magazine Histoire du christianisme que M. Chagnon va pouvoir utiliser dans sa défense contre la police de la pensée, où d'excellents agrégés de l'université, agrégés d'histoire, dont viennent de procéder à une critique des manuels scolaires qui est tout à fait pertinente, car ce qu'on enseigne à nos enfants, c'est hallucinant. C'est effectivement ce qu'on peut appeler, si on donne un sens au mot, non pas le révisionnisme, qui est l'attitude historique permanente, parce qu'on se porte toujours
la moindre
sur l'histoire, mais un négationnisme total de ce qu'est le Coran. Parce que là, s'il y a un négationnisme intrinsèque, chimiquement pur, c'est celui qui consiste à enseigner aux enfants qu'il y a dans le Coran, qu'il n'y a pas dans le Coran ce que l'on y trouve. Alors ça, c'est quand même du mensonge à l'état pur, et c'est agrégé. Alors, il se promène dans tous les livres d'histoire, et je renvoie les auditeurs de Radio Courtoisie, ils peuvent trouver cette revue magazine Histoire du christianisme. Elle n'est nullement une revue que l'on qualifierait d'intégriste, de traditionnaliste, c'est pas une revue du Front National, c'est une revue d'histoire très sérieuse, très très bien faite. Je dis pas que nos revues ne sont pas bien faites, mais je veux dire, elle a sa spécialisation universitaire, hein, et je crois que cela montre un réveil. Cela montre un réveil, ce qui fait que au train où vont les choses, si l'on projette cette dynamique sur les mois et les années qui viennent, avec les fautes accumulées par M. Sarkozy, je dois dire que la lettre ouverte que je lui ai adressée a eu beaucoup de succès, j'en suis très heureux, non pas pour moi, mais pour la revue Reconquête, et nous sommes obligés de procéder à des photocopies pour ceux qui nous la demandent. Alors, voilà pourquoi, pour notre part, nous allons essayer, au Centre Charlier, à Chrétien et Solidarité, d'analyser cette question-là. En effet, la question de l'islam et de la confrontation avec l'islam, du défi de l'islam, mérite une réponse. C'est une réponse double. Elle est religieuse pour nous, chrétien, et elle est politique. Et pour l'instant, les partis politiques n'ont pas commencé à analyser comment procéder à cela. J'en ai parlé ici même, il serait temps que l'on réfléchisse, parce qu'une chose, oui, c'est déjà pas mal, de constater les effets, de remonter aux causes, mais ensuite, il va falloir voir, comme pour le communisme, comment faire de l'anti-islamisme de systématique. Et je suis heureux aussi de voir que la dépêche du midi prend la défense de la légitimité, de la liberté de l'islamophobie, en disant on n'a pas le droit d'être arabophobe. Eh ben d'accord, moi je suis pas du tout arabophobe. Hein, j'aime le Liban, j'aime les chrétiens d'Égypte, d'Orient, donc nous n'avons rien contre les Arabes, mais l'islam, je suis content de voir que la dépêche du midi, qui n'est pas d'habitude, puisque c'est le journal de la gauche la plus agressive et la plus haineuse, donc dit tout de même, il faudrait permettre de ne pas tout accepter de cette religion. Ils sentent très bien qu'ayant tué l'autre, celle-ci pourrait être beaucoup plus dangereuse.
Alors, tu soulignais tout à l'heure le caractère, le fossé qui s'ouvre entre la France, le pays réel et le pays légal. Dans l'Église, on le voit entre les comportements des catholiques de la base et les propos ahurissants de certains évêques.
Il n'est pas de semaine où des jeunes prêtres ne prennent contact, en fait, la griffe. Je ne parle pas de nos amis de Saint-Nicolas ou autres, des jeunes prêtres qui ont eu le courage de suivre des séminaires, je ne sais pas comment, à Rome, peut-être même en France, mais tout d'un coup confrontés à la réalité, comme celui qui est venu nous trouver dernièrement, d'une ville de Provence, qui nous a dit « je suis avec vous ».
Et il y a un autre exemple, c'est le rapport de l'INED récemment. L'INED, c'est...
C'est le National d'études démographiques.
L'étude démographique. Alors d'après, voilà ce que veut nous faire avaler l'INED. Il n'y a pas plus d'immigrés en France qu'aujourd'hui qu'en 1924. La quasi-totalité des immigrés noirs sont des Antillais. Le taux de fécondité de l'immigration, 2,2, est pratiquement l'équivalent au taux de fécondité des souches, puisque ce dernier est de 1,7. Les musulmans ne posent aucun problème en France. Le voile est une simple mesure d'hygiène, probablement à apporter pour éviter la légionnose.
Qu'est-ce que ça a à voir avec la démographie, ça ?
Les politiciens... Non, mais ça, c'est les conséquences qu'on en tire. Et les politiciens ne mentent pas. Alors, quand on lit ça... on peut rire, mais on peut aussi se dire que l'INES, c'est une administration qui est payée avec les impôts. Donc, il y a un moment où il faudra peut-être arrêter de faire payer aux Français le poison qui est en train de les tuer. Qu'on les empoisonne, après tout, bon, ça a toujours existé, mais qu'on leur fasse payer le poison, c'est la méthode chinoise. Qu'on va vous fusiller avec une balle dans la nuque, mais on enverra la facture de la balle à la famille.
Mais, Serge, je citais tout à l'heure cette demi-heure de propagande trotskiste. Mais ceux qui n'écoutent pas France Inter, Radio d'État, pensent peut-être que c'est un accident, que c'est exceptionnel. Mais ceux qui l'écoutent savent que France Inter, Radio d'État, avec un gouvernement de droite, c'est le lieu du libre débat permanent entre la gauche et l'extrême gauche. Alors depuis le temps que je constate ça, moi je commence à me demander si la droite ou la prétendue droite au pouvoir ne trouve pas un intérêt à laisser faire ça.
Eh bien, si, bien sûr. Et voilà la preuve d'ailleurs. J'ai remarqué un sondage qui a été fait auprès des élus locaux. 42% des élus locaux se déclarent favorables à une fusion des listes de droite et de gauche si, à l'issue du premier tour, le Front National est en mesure de l'emporter en cas de triangulaire dans une région. Alors, on voit très bien que ces mecs, ils font dans leur froc, quoi, pour parler poliment, ils se disent on va perdre la gamelle. Alors tout plutôt que de perdre la gamelle. Donc tant pis, on va limiter les dégâts. De toute façon, moi je vais me démerder pour que ce soit l'autre qui abandonne sa place. Et comme ça, je serai réélu. Mais c'est la première fois qu'on arrive 42%. 42% des élus. En réalité, c'est 42% d'élus. Si on fait un calcul rapide, je suis à peu près certain qu'on va s'apercevoir, c'est les gars qui sont à peu près sûrs de perdre leur place si le Front National passe. Alors, un auditeur, relier les deux questions qu'on vient d'évoquer, Bernard, je voudrais poser une question à Bernard Anthony. Il dit, en 99, il y avait deux musulmans sur la liste Le Pen aux européennes. Combien y aura-t-il de musulmans ou de musulmans en tchador sur la liste Le Pen en juin 2004? Est-ce que tu en as la moindre idée?
Non, je ne voudrais pas aborder les choses sous cet angle-là. Je soutiens ardemment partout les listes du Front National. On sait que je fais preuve quelquefois de caractère nécessaire donc dans le contexte de l'évolution de ce parti, mais nous sommes en période électorale. Et là, je ne veux tenir aucun propos qui pourrait en quelque sorte provoquer je ne sais trop quelle tension, quel doute. Je crois que les listes seront bien constituées et j'espère que cet auditeur sera très vite rassuré. Je n'en doute pas.
Je crois qu'en plus, on peut dire que Jean-Marie Le Pen vient de se prononcer contre le port du voile.
Alors
jusqu'à présent, il était resté à peu près...
Oui,
c'est une bonne chose de l'avoir interdit, mais il ne faut pas en rester là, c'est loin de suffire.
Oui, je crois que sur ce plan-là, il a bien fait, parce que ce que nous avons dit, mais maintenant on y est, c'est que le problème, ce n'était pas le voile. Il y a quelques années, il n'y avait que quelques voiles. On a mis du vent dans les voiles, on a gonflé cette affaire-là.
Mais moi, j'ai même un slogan à leur donner. Mettez les voiles.
Oui, mais... Mais nous sommes aujourd'hui dans un imbroglio considérable parce que ils ne savent plus, les promoteurs de cette loi ne savent plus où ils en sont. Le problème, ce n'était pas à l'origine le voile. Aujourd'hui, ce l'est devenu puisqu'on sait ce qu'il signifie. Mais le problème, c'est l'islam. Je m'excuse aussi de rappeler qu'il faut surtout remonter donc aux causes. La cause du voile, c'est l'islam et c'est pas le voile qui menace notre identité nationale. Le voile permet le repérage en quelque sorte. Mais ils n'y arriveront pas. Dans les milliers d'établissements aujourd'hui, vous croyez que le petit pion timide, que le professeur cauteleux, inquiet, va pouvoir affronter des jeunes gens décidés? On va voir très rapidement que cette loi, de toute façon, donc est inepte. Ils ne s'en sortent pas, ils ne savent pas comment ils vont aboutir. Nous, nous avons autre chose à dire, c'est-à-dire comment faire en sorte que la France ne soit pas terre d'islam. Et pour cela, il faut continuer comme des professeurs courageux comme celui que j'ai cité, enseigner la vérité aux petits-enfants de France, dont la première réforme qui doit être menée, c'est celle de l'éducation nationale, commencer donc à changer les livres scolaires. Voyez-vous, là, il n'est de contre-révolution politique possible que s'il y a aussi une contre-révolution culturelle.
En tout cas, il y a quelqu'un qui a bien compris l'importance des lycées, c'est Monsieur Jean-François Copé. Jean-François Copé, pourquoi vous riez?
Parce que c'est le candidat de mon coin.
Alors vous n'êtes pas obligé de voter pour lui, il y a quand même le choix. Bon. Alors je vous lis la chose. Jean-François Copé a rencontré les homos de droite de l'association Gays Libres, auquel il a promis que le gouvernement dont il est porte-parole allait rapidement présenter devant le Parlement un projet de loi relatif à la pénalisation de l'homophobie. On peut plus être homophobe, on peut plus être islamophobe, on peut être... Qu'est-ce qu'on peut être maintenant? Bécatchophobe? Ça, on a droit. Le pénophobe, tiens.
Non, mais nous sommes là dans le processus soviétique. Je rappelle qu'en Union soviétique, que dans l'Union soviétique, pire que le goulag, il y avait des asiles psychiatriques. C'est-à-dire, au lieu d'affronter l'ennemi parce qu'il est un ennemi, on le fait passer pour fou. Or, la phobie, je le rappelle, c'est tout simplement donc un phénomène psychologique, psychiatrique. C'est une la loi, depuis quand la loi doit-elle contrôler des réflexes, des passions, des inimitiés, des amours, des affections?
Surtout que force. Ces gens-là, ils sont phobophobes.
Ils sont absolument phobophobes et c'est une très belle expression. C'est une très belle expression que tu viens de créer, Serge. Mais cette espèce de phobophobie est effectivement très dangereuse. C'est vraiment le comportement totalitaire par excellence. On a connu ça sous la Révolution française et aujourd'hui, c'est la droite au pouvoir qui agit mentalement comme les totalitarismes que l'on a connus au cours des siècles précédents.
Alors je vous lis d'ailleurs la suite de cet écho. Je ne l'ai pas cité simplement pour le plaisir de dire que François Copé s'occupe
des choses.
C'est ça. Mais je lis la suite. Donc, il a rencontré les homos de droite de l'association gay, auquel il a promis que le gouvernement allait rapidement présenter devant le Parlement, c'est vrai qu'il y a eu urgence, un projet de loi réprimant l'homophobie. Emporté par son bel enthousiasme, il a même annoncé qu'une fois, écoutez bien, ça c'est quand même extraordinaire, hein, il a même annoncé qu'une fois élu président de la région, c'est pas grand risque entre nous, enfin, on sait jamais, tout peut arriver, il mènerait, ouvrez les guillemets, une politique volontariste du Conseil régional au travers d'opérations de sensibilisation sur le thème de l'homophobie dans les lycées franciliens. Eh, je ne pas que ça commence à bien faire, les mecs. On a déjà un maire qui est de la jaquette. On va avoir un président de région qui va promouvoir la jaquette flottante dans les lycées. Non, mais ils sont devenus complètement fous, tous ces mecs. Quand est-ce qu'on va faire tout ça en couronne dans Paris? La prochaine Gay Pride, alors, il sera obligé d'y aller. Mais c'est des malades, ces types. Mais il faut les piquer. Non, mais franchement.
Et à la télé.
Mais non, mais vous vous rendez compte où on en arrive?
Mais à la télé, on vous les présente maintenant, ça y est.
Voilà un bel emportement, Serge.
Mais la télé, je m'en fous, parce que la télé, personne n'est obligé de regarder. Mais ces gens-là, ils nous gouvernent quand même.
Voilà un bel emportement que j'approuve, et voilà pourquoi aussi. Et
c'est incroyable.
Lorsque nous ne voulions pas du PAX, ce n'était pas du tout pour traquer les mœurs, comme certains le disaient, mais là je fais une petite allusion. Bon, mais c'était parce que c'est une loi éminemment antisociale et que nous sommes aujourd'hui dans un processus de subversion radicale des choses. Et voilà pourquoi finalement, on peut se mettre à la place des musulmans aussi. Quand ils voient ce degré de décadence de la société française, ils se disent qu'ils vont rentrer là-dedans tombant du beurre.
C'est ce que tu dis,
hein. Ils vont rentrer là-dedans tombant du beurre.
Allez, salut.
Et voilà pourquoi nous ne pouvons faire qu'une révolution totale face à cela. Ça ne passe pas seulement par l'élection, mais bien sûr, cela passe par l'élection, mais à condition de tenir ferme toutes nos positions.
Alors, pour en finir, Bernard, pour aujourd'hui, je voudrais quand même qu'on revienne à un sujet qui me tient à cœur, parce que c'est à peu près la seule responsabilité honorable que j'ai dans ma vie. Je suis vice-président de la GRIF, et je m'en flatte. J'espère bien que je vais être reconduit dans mes fonctions ce soir.
Ça va se passer ce soir.
Démocratiquement.
Ce soir, en effet, démocratiquement.
C'est ça qui m'empêche.
Démocratiquement, puisque la GRIF est une association dont il y a des statuts parfaitement conformes à la loi de 1901. Elle a une assemblée générale constituée d'une vingtaine de membres. Elle a un conseil d'administration dont tu fais partie et dont le tiers est chaque année soumis à renouvellement. Alors, je suis heureux de te dire que tu n'es pas ce soir soumis à renouvellement. Et ensuite, démocratiquement, je propose à mes amis le bureau. Et donc, peut-être te proposerai-je tout à l'heure, Serge, mais je ne peux pas le dire, parce
que
serait une anticipation antidémocratique et un tout petit peu ennuyeuse.
Sur le plan financier, quand même, ça m'aide bien.
Oui, oui, ah, bien sûr. Nous allons...
La cotisation étant de 5 euros, c'est ça, hein.
Oui, mais il y a 6 000 adhérents. Pour toi, nous allons... Oui, alors là, je ne vais pas faire un compte rendu financier de la GRIF aujourd'hui, mais pourquoi pas, je n'hésite pas du tout. Il y a effectivement 6 000 adhérents. Et je crois que la GRIF compte beaucoup plus d'adhérents que l'Homme Rap, la LITRA, la Ligue des droits de l'homme réunie. Mais ce que nous n'avons pas, et d'ailleurs nous ne voulons pas, ce sont les subventions des collectivités locales, des collectivités régionales. C'est le prix de notre indépendance. Et avec 6 000 adhérents, on peut mener vaille que vaille une vingtaine de procès par an. Cette année, nous avons gagné beaucoup de choses et nous allons ce soir décider plutôt d'agir sur le terrain judiciaire. Mais nous y reviendrons ultérieurement.
Avant de parler de la GRIF, Bernard, ouais. Si tu permets, je voudrais quand même citer une lettre d'un monsieur. On peut la citer comme ça parce qu'il y a un mot qui est employé, mais je ne pense pas que les enfants comprennent.
C'est un mot savant.
Voilà. Il est parfaitement normal que Jean-François Copé soit pour une loi anti-homophobe parce qu'il est proctologue.
Voilà. Non,
je ne savais pas ça qu'il était proctologue.
Je voudrais quand même... Il a l'air de s'inquiéter, Bernard Anthony, des subventions qui pourraient lui tomber sur la griffe et dénaturer son action. Je voudrais le rassurer. Il n'y a plus de subventions à distribuer. En tout cas, à Paris, puisque M. Delanoë vient d'attribuer 15 000 euros aux jeunes gays, 100 000 euros au centre lesbien, gay, bi et trans. On expliquera une autre fois ce que c'est que trans.
Non, ça va, on expliquera.
Non, ça va. Fédération sportive
Coupons-la.
Gay et lesbienne, 4 000 euros. Debout étudiant gay et lesbienne, 5 000 euros. Il n'y a plus un rond en caisse, rassurez-vous, plus un rond pour la griffe.
Non, mais hein, quand je dis que c'est des givrés, c'est quand, je suis quand même pas loin de la vérité, il faut bien reconnaître, hein.
Voilà.
Bon, voilà. Alors, la griffe.
Alors, pour ce qui est de la griffe, faute d'avoir les subventions de quelques municipalités que ce soit, elle va quand même se retrouver dans une mairie fort sympathique pour une grande journée nationale d'information et de réflexion. Ça sera à Orange le 3 avril, veille des rameaux. Pour cette journée, nous allons convier
tous nos adhérents, au moins du Grand Sud et de la région Rhône-Alpes et de Paris, qui peuvent facilement rejoindre la bonne ville d'Orange. Nous aurons le matin des conférences en plénière de nos grands avocats, Georges-Paul Wagner, Jacques Trémollet de Villers, Valorant Saint-Just, Le Driel pour la Cour de cassation. L'après-midi, des rencontres. Le vice-président de la GRIF, qui est Serge de Bekech, sera convié à animer un atelier de formation de nos adhérents à la communication. Et il y aura beaucoup de rencontres. Je ne vais pas ce soir lire tout le programme. Voici pour ce qui est de la grande phase 2004 de la GRIF, puisque nous continuons à traquer Sniper et associations du même genre. Il faudrait les avocats pour commenter ici mieux que moi sur le plan judiciaire où en sont toutes nos affaires. J'ai commenté il y a peu l'incroyable affaire Santa Susana de Montpellier. On est partout dans l'inversion la plus absolue, la plus radicale. C'est ce que j'ai appelé le génocide français. Ce génocide français, faire que les Français soient de moins en moins chrétiens, qu'ils se sentent de moins en moins français, qu'ils soient de moins en moins des hommes. Ça, et finalement, qu'ils soient de moins en moins nombreux. Ça, c'est l'aboutissement. Nous touchons là à la volonté de mort, hein, parce que tout ça pue la mort. C'est l'instinct de mort. C'est une civilisation qui se suicide. Et de la Noé et les autres, Copé et compagnie, sont au fond marqués du signe de la mort. Cet instinct que les plus grands écrivains, d'ailleurs, ont vu, tel Dostoïevski, tu aimes la littérature russe comme moi, Serge, dans cet instinct de mort que dénonçait déjà, que dénonce Chafarevitch, l'admirable compagnon de Solzhenitsyn, dans le phénomène socialiste, nous y sommes. Et voilà pourquoi nous sommes les forces de vie, nous sommes les forces de progrès, nous sommes les forces de liberté. Dernièrement, j'ai reçu la lettre d'un de mes amis respectables me disant, mais dans tous vos discours, vous défendez la liberté qui est une valeur maçonnique. Mais je rêve, je me pince. Hein, j'ai renvoyé à cet ami un petit mot en disant, avez-vous bien médité la parole de l'Évangile ? La vérité vous rendra libre. Ça signifie que la vérité est au service même de la liberté.
Qu'est-ce qui voyait ça au fronton de...
Je crois qu'il nous faut opposer à l'inversion des valeurs de la subversion la défense des valeurs et qui sont les valeurs de vérité et de liberté. Et le combat que nous avons à mener aujourd'hui, je le dis aux auditeurs de Radio Courtoisie, à qui je demande de venir à nos réunions, par exemple à notre colloque du 31 janvier sur la laïcité, d'appuyer notre résistance. Il va falloir mettre les bouchées doubles. Il ne suffira pas de mettre un bulletin dans l'urne. Bientôt, cela va être terminé si les choses continuent comme cela. On a maintenant un combat de survie à mener. Un combat pour la liberté, parce qu'on le voit bien, tout ce que tu es en train de nous lire là, bien, c'est finalement le bâillon qui se resserre sur nous. Alors, est-ce qu'on est encore un peuple capable d'affronter l'adversaire comme nous l'avons fait pendant des siècles, ou bien est-ce que nous décidons finalement de périr? C'est tout l'enjeu que nous devons mener avec nos différentes organisations et avec un esprit, je crois, de conquête, enfin en tout cas de reconquête.
Donc, pour les auditeurs qui ont subi ou qui ont été témoins ou qui ont connaissance de faits qui sont de nature raciste contre n'importe qui, mais plus spécifiquement contre des Français catholiques.
Nous défendons tous les Français, quels qu'ils soient, quelle que soit leur origine, quelle que soit leur race d'origine, nous défendons tous les Français. Et nous défendons aussi les chrétiens, quels qu'ils soient, parce que les autres, ils s'en occupent. Hein. C'est quand même extraordinaire que pendant plus de 50 ans, la LITRA, le MRAP, la Ligue des droits de l'homme n'aient jamais trouvé la moindre manifestation de racisme anti-français. Cela est tout de même hallucinant. Alors, mais je le dis aux auditeurs, nous avons besoin de témoignages valables. Testis unus, testis nullius. Donc, quand il y a une affaire de racisme anti-français ou de racisme anti-chrétien, il faut évidemment essayer d'avoir des témoins fiables. Parce que, pour avoir raison devant les tribunaux, nous devons avoir 100 fois raison. Un jour, je vous raconterai le procès que j'ai eu à la 17e chambre correctionnelle. Je suis en appel, dont je vous parlerai peut-être, si vous le voulez bien, Serge, un jour de la justice française telle que nous la pratiquons. Alors, j'adjure les auditeurs de Radio Courtoisie qui lisent les journaux, quelquefois les journaux de publicité, de relever les petites annonces qui pratiquent de la discrimination positive que nous n'acceptons pas, qui pratiquent donc tout un racisme anti-français. Il nous faut les pièces à conviction et surtout les journaux intégralement. Je dis cela parce que quelquefois on nous envoie des petits bouts de papier. Non, ça ne sert à rien. Si on veut aller devant le tribunal, il nous faut le journal. Alors, il n'est pas toujours facile de le récupérer. En tout cas, aujourd'hui, nous sommes devant, évidemment, nous ne pouvons pas suivre toutes les affaires. Nous n'avons pas assez d'argent pour cela. Parce qu'effectivement, avec 6000 adhérents à quelque chose comme 70 francs, je ne parle pas encore dans la monnaie actuelle, nous ne pouvons pas mener beaucoup de choses. Donc, il faut cibler. Alors, nous avons ciblé. Nous en avons parlé, Sniper, Santa Susana, Sainte-Capote, ben c'est toujours pareil, c'est dans la France entière. Et pour l'instant, nous avons réussi à faire que des juges d'instruction, devant notre argumentation, mettent en examen les voyous auxquels nous faisions allusion tout à l'heure.
Merci Bernard. La griffe, c'est 70 boulevard Saint-Germain.
70 boulevard Saint-Germain dans le 5e. Et le dictionnaire de la réplique, 70 boulevard Saint-Germain dans le 5e, parce qu'il y a eu une erreur et du courrier ne nous est pas parvenu parce qu'il est envoyé dans le 6e.
Voilà. Et ceux qui veulent savoir.
Je vais demander à la poste, au facteur, de savoir.
Alors, si vous permettez un petit mot aussi, nous avons demain soir une très belle conférence d'un homme éminent qui traque la secte psychanalytique. C'est le professeur Corraz, agrégé de philosophie. Il sera chez nous à 19h. C'est une conférence. On peut retirer des invitations à l'entrée s'il y a assez de place.
C'est Benesto qui était venu à cette émission qui a fait un bouquin formidable sur l'imposture freudienne.
Les mensonges freudiens. Ouais. Et demain, j'allais dire. Le maître de Benesto, Jacques Corraz, agrégé de philosophie, docteur en médecine, docteur en psychiatrie, dont je viendrai traiter de la psychologie du pouvoir au pouvoir des psychologues. Et quand il parle de ces psychologues-là, c'est entre guillemets, ce sont ceux qui agitent messieurs Delanoë, Copé et compagnie que nous avons traités.
Ben on y sera. Merci Bernard.
Les auditeurs donc, qui voudraient voir si le plumage de Bernard Anthony est comparable à son ramage, je le faire aussi samedi 31 janvier prochain de 10 à 17 heures. Et en sus, ils pourront rencontrer René Marchand, Richard Haddad, Jeanne Smith, Jean Madiran, Georges-Paul Wagner, Yves Daoudal et Thibaut de la Tocnay à la même adresse, 70 Centre Charlier, 70 Boulevard Saint-Germain, dans le 5e, samedi 31 janvier de 10 à 17 heures.
Victoria, les questions.
Il y a un certain nombre de commentaires et de questions. Alors. À midi à Saint-Denis, pour commémorer la mort de Louis XVI, la basilique était pleine à craquer. Un signe de renouveau dont parle Bernard Anthony.
Absolument. C'est très heureux.
Et alors, à la sortie de la basilique, après la messe de ce matin, des individus proposaient des morceaux d'un mouchoir du roi. Très cher, comme relique. Un responsable des jeunes a reconnu des membres de l'équipe « On a tout essayé » de Laurent Ruquier. Et s'est interposé. Le reportage doit passer demain, soir jeudi à 19h. Les visages seront-ils floutés comme demandé et comme on fait dans les cités? Je suis maître chien dans la sécurité. J'ai travaillé à Orly, qui n'est pas sûr du tout, car tout y est une véritable passoire.
Ben, lisez le libre journal de Serge de Bekech, on l'a commenté, mais ceux qui prennent l'émission en route pourront avoir, comme moi qui prends l'avion au moins une fois par semaine, quelques inquiétudes.
Je rappelle l'adresse, on envoie un carnet de timbre pour avoir ce numéro 312 du libre journal à SDB, 4 Place France List, 75010 Paris.
Et après tout ce que vous venez de dire sur la maintenance dans les aéroports, faut-il être inquiet? Des avions qui survolent Paris très très souvent, en grande quantité.
Écoutez, je crois qu'il ne faut pas non plus faire de la sinistrose. Il faut savoir qu'en se battant, on peut éviter le pire. Et je crois que le travail qu'a fait Serge en publiant ce document-là va avoir des effets. Je pense que nul ne peut se permettre aujourd'hui, je pense que même M. Sarkozy, qui a quand même des services, se dira si jamais il arrivait quelque chose, on pourrait ensuite brandir le journal de Serge de Bekech, et ça serait très ennuyeux pour lui, parce qu'on a porté à la connaissance du grand public, donc des informations de salut public. Je crois que là, Serge a fait un excellent travail de défense des Français.
Moi, je peux répondre plus précisément à cet auditeur qu'il y a une loi, une excellente loi, qui interdit le survol de Paris à moins de 10 000 pieds, si je ne me trompe. Bon, il y a peut-être quelqu'un de plus savant que moi qui va me corriger, c'est peut-être 12 000 ou 9 000. Et il suffit de passer un quart d'heure à Paris dans sa vie pour constater, pour voir que cette loi est constamment bafouée, comme nos 500 000 lois, comme les règlements de sécurité à Orly et Roissy.
Une auditrice vous demande pourquoi ne rappelez-vous pas l'émission télévisée du roi du Maroc, Hassan II, il y a plus de 10 ans, qui avait dit que c'était une erreur de vouloir intégrer les musulmans, qu'ils ne feraient jamais de bons Français à cause de leur culture.
Et oui, on ne peut pas tout rappeler, mais cette auditrice, elle le fait, elle fait bien.
Trouvera-t-on dans votre journal un écho de ce que vous venez de dire, monsieur de Beketch? Nous sommes inquiets. Une auditrice nous dit « Je viens de la gauche, d'une famille de francs-maçons. Je suis adhérente de Radio Courtoisie depuis quelques années. Je vote Front National, etc. » Oui, monsieur Anthony, il y a de bien étranges réhabilitations. Et faits et documents d'Emmanuel Ratier, numéro 164 et 165, révèlent des faits époustouflants sur l'islam.
Oui, tout à fait. C'est un très bon numéro de notre ami Ratier aussi, qui mériterait d'être commenté.
J'ai pas son adresse là, mais j'ai son site. C'est faits-et-documents.com.
Et puis, lors du défilé des intégristes musulmans, est-il normal que le leader intégriste ait tenu des propos racistes antisionistes sans qu'il y ait eu des poursuites? Faut-il penser que les poursuites sont réservées aux chrétiens?
Ben voilà, il y a une observation et une réponse.
Mercredi, le gouvernement interdit le foulard. Vendredi, le gouvernement tolère le bandana. Définition du bandana dans le Petit et Larousse, carré de tissu servant de foulard.
Attendez, mais il y a un truc encore plus drôle, là, c'est qu'il y a une déclaration de Ferry.
Il veut plus.
Ferry dit, le bandana est autorisé, mais s'il est porté d'une façon qui montre que c'est un signe d'islam, il faudra l'intérieur. De même, dit-il, parce que pris par son élan, il finit par dire des conneries, ça c'est classique, de même la barbe. Les barbes sont autorisées dans les collèges et les établissements publics, et les établissements scolaires, mais si c'est une barbe islamique, elle sera interdite.
Oui, mais je crois que Serge...
Il est très mal barré, à mon avis.
Décidément, tu es complètement fermé au progrès, à l'adaptation, à la lutte contre le chômage. Tu ne te rends pas compte que avec cela, on va pouvoir embaucher 200 000 formateurs dans l'éducation nationale qui vont faire passer les professeurs à la roulette de leur stage pour distinguer le bandana du foulard, la barbe acceptable de la barbe non acceptable. Je me tourne vers Goffman, la sienne est à la limite. Ça, je dois dire que Goffman, il ne va plus pouvoir aller à l'école.
Pardon, je rase ma moustache, il faut une barbe complète.
Mais ce que je veux dire par là, non, on ne va pas entamer un débat ce soir, mais ce que je veux dire,
c'est qu'on
va trouver des emplois jeunes là à tire-larigot pour former au diagnostic du bandana, du foulard et de la longueur de la barbe adéquate.
Les couettes aussi sont interdites.
Ah oui. Et oui. Et ça sera plus de la barbe à papa.
Ils sont fous.
Après l'attentat contre la voiture du nouveau préfet, France 3 Bretagne a tout de suite insisté sur la piste d'extrême droite. Et la même chose pour les journaux locaux Ouest France et Presse Océan. Ils sont beaucoup moins disert depuis avant-hier. Et je confirme bien ce qu'avait anticipé Serge Le Becquetch la semaine dernière, à savoir que ce monsieur Dermouche est plus franc-maçon que musulman. Monsieur Rachid Kassi a assimilé dans les médias le Front National avec les intégristes musulmans.
Ouais, je crois qu'au point où elle en est, vous savez, il y avait un vieux proverbe latin, Jupiter dementat quos vult perdere, Jupiter rend fou ce qu'il veut perdre, aujourd'hui c'est Allah rend fou ce qu'il veut perdre.
Et êtes-vous au courant de ce qu'a dit Jean-Luc Mélenchon qui veut interdire le Front National?
Ben il faut pas mélanger les torchons et les soviets, hein.
Vous savez comment on l'appelait chez les trotskistes, Mélenchon? C'est pas moi qui le dis, c'est un ancien trotskiste qui a dit ça, hein.
Méchant con.
Voilà.
Mais oui, au sujet du préfet Dermouche, je voudrais dire les choses suivantes. Bon, c'est que ce pauvre homme a subi un double attentat, celui de l'amant de sa précédente femme. Enfin, tout ça est un peu compliqué, mais donc il n'est pas le seul dans des cas de situation extrêmement embrouillée. Mais enfin, cela dit, En l'occurrence, on a présenté Dermouche comme un préfet musulman, issu de l'immigration. Sa réussite professionnelle est incontestable. Bon, quelles que soient ensuite ses appartenances à des sociétés comme Le Siècle et autres qui ont pu lui faciliter son ascension. Mais sa réussite, tout de même, c'est la réussite de l'Algérie française. Il faudrait dire cela. Monsieur Dermouche, musulman, mais on a menti. C'est un attentat. Ses enfants s'appellent Elodie. Ce n'est pas un prénom musulman. Amel, vieux prénom visigothique, comme l'a noté Serge, et Romain, dont le fils de M. Dermouche s'appelle comme moi. Moi, je m'appelle Bernard Romain-Marie. Or, quand on baptise son fils Romain, demandez donc à mon père. C'est quand même un choix très significatif. C'est l'adhésion à une civilisation. Quand on est fils de Kabyle, quand on s'appelle Romain, qu'est-ce que ça veut dire? C'est la nostalgie de l'Afrique du Nord, de Saint-Augustin.
Il y a une vedette de télévision qui s'appelle Rachid Arabe. Il s'appelle pas Rachid Romain.
Bien sûr. Alors, voyez-vous, ce pauvre Dermouche a subi un double attentat. Un attentat perpétré par Sarkozy et Jacques Chirac contre, en quelque sorte, son identité. Hein, on en a fait un harki, donc un attentat ignominieux. Ça, je dois dire, il faudra voir tout à l'heure si on ne peut pas prendre la défense de M. Dermouche, donc odieusement attaqué dans son identité et, j'allais dire, dans son intégrité.
Alors, il ne faut pas qu'il vienne à Paris parce qu'il faut que Dermouche se méfie des tapettes.
Oui, ça, je crois, Serge, là, que c'est très bon, mais glissons, hein.
Voilà. Et un auditeur nous signale que les gros bras du parti, ce sont les gros bras du Parti des Travailleurs qui assureront le service d'ordre du congrès de FO qui doit désigner le successeur de Blondel.
Bah ça.
Avez-vous lu la Libération, le journal Libération d'hier? Les Noirs rouspètent car le gouvernement n'a pas nommé un préfet de leur communauté.
Après, il faudra un préfet chinois.
Oui,
c'est vrai, pas de raison.
Bien sûr. Ils seront 1 million, les Chinois, en 2007, nous promettent.
Et sans le compter qu'il faudra aussi, quand même, des préfets
adorateurs de l'oignon.
Obligatoirement homosexuels, parce qu'il va bien falloir. Alors, vous voyez, déjà, ça va être subtil comme composante des préfets. Ouais. Chacun en aura peut-être un. Il y a que les catholiques, pour l'instant, on occupe pas beaucoup. Il est vrai que les évêques s'occupent des valeurs fondatrices de la République.
Imagine le scandale si Sarkozy avait dit il faut nommer un préfet. Fait catholique.
Il aurait fallu le trouver déjà.
Comment peut-on se procurer le livre La guerre des immondes de Pierre Descaves?
Dans n'importe quelle bonne librairie,
Oui, ami de toute façon. Pouvez-vous nous donner les références du libre journal, cher Serge de Bekech? Journal papier où il parle de la sécurité sur les aéroports. C'est le dernier.
C'est le numéro 312. Alors, on peut se procurer contre un carnet de timbre. Et puis, ce qui est plus raisonnable, c'est d'envoyer 110 euros et on sera abonné pour un an à ce journal qui paraît sur 24 pages, trois fois par mois. Tout ceci à l'adresse. Il y a également un site pour les avaricieux et les fesses Mathieu.
Mais n'écoute pas.
C'est francecourtoise.info. Sinon, donc, un carnet de timbre pour le numéro 312 qui décrit la situation à Orly et Roissy. 110 euros pour s'abonner pendant un an à SDB, 4 place France Liste, 75-010 Paris.
Et puis, on vous demande de redonner les coordonnées de la griffe avec le montant de la cotisation.
70 boulevard Saint-Germain. Paris 5e, c'est à deux pas de Maubert Mutualité. J'y serai demain à partir de 15h30 pour ceux qui veulent venir acquérir le dictionnaire de la réplique. Le montant de la cotisation à la GRIF est de 8 euros.
Et enfin, un auditeur s'émerveille parce que dans son camion, à la Ferté-Milon, il nous capte. Alors, est-on que c'est extraordinaire? Messieurs, c'est parce que vous êtes merveilleux, voilà.
Parce qu'on crie fort.
Nous le saluons, même dans son camion.
Oui. Voilà. C'est toujours plein de messages.
Je vois qu'il y a la gnose, alors je vous lis pas, je l'ai pas lu non plus.
Gnose toujours, tu m'instructionnes. Voilà. Alors, un mot sur l'abbé Sulmont. On me demande de parler de sa condamnation. Il était condamné en gros à 1800 euros
je crois que c'est
d'amende,
ça,
de frais d'insertion, etc., etc. Mais il y a une confusion. C'est-à-dire que, en fait, il était poursuivi pour deux choses. Il était poursuivi pour ses propos sur l'islam et pour avoir évoqué le péril jaune. Or, il se trouve que les propos sur l'islam étaient prescrits. Parce qu'il y avait plus de 3 mois quand ils avaient été imprimés dans son journal quand la justice s'est saisie de l'énorme scandale, c'est effrayant ce qu'il a fait. Il a dit que, en gros, l'islam n'était pas une vraie religion. Bon, la part d'un curé, c'est quand même assez scandaleux, il faut bien le dire. Et donc, cette affaire est tombée. En revanche, quand il avait parlé du péril jaune, vous vous souvenez, le péril jaune, combien de fois on en a parlé, alors là, ils ont gardé, donc, ça n'était pas prescrit, et par conséquent, il a été condamné à 1 800 €, par le tribunal d'Abbeville, auquel je présente mes vives félicitations, et les gars des droits de l'homme, simplement la Ligue des droits de l'homme, qui était plaignante, n'a pas fait son beurre, ils ont pris 1 €. Ça vaut pas le coup, quand même. Cela dit, si on veut en savoir plus, on peut faire plusieurs choses. Adhérer en masse à l'association. Alors, ce qui est très drôle, c'est qu'en sortant, naturellement, les radios et télévisions étaient là pour montrer un curé raciste. Ça valait le coup de se déranger. Et donc, ils l'ont interrogé. Monsieur, qu'est-ce que vous avez à dire pour votre défense? A dit le gars des Fer 3. Et le curé lui a dit, moi, mes parents me parlaient déjà du péril jaune, il est bien normal que je mette en garde mes paroissiens. Alors le gars de l'atelier lui dit, mais vous récidivez. Et je récidive pas, mais je m'arrête pas, c'est tout, je ne cesserai pas. De toute façon, ils peuvent me... Alors vous allez être encore condamné. Il dit, oui, ils peuvent me condamner 3 fois, 8 fois, 10 fois, je redirai toujours la même chose.
Ah oui, l'abaissement est un homme admirable. Et je céderai à Valrand Saint-Just, l'avocat de la griffe que je vais retrouver tout à l'heure, de l'avoir défendu avec, je sais, beaucoup de punch, beaucoup de d'efficacité, puisque quand même, sur l'essentiel de ses propos, il n'est pas condamné. Pour le reste, bon, ça fait partie de la liberté de parole, on peut penser ce qu'on veut, du péril jaune ou pas du péril jaune, c'était complètement... C'est inadmissible, c'est de traquer des propos comme cela. Et donc, une fois de plus, on en revient à ce que je disais tout à l'heure, liberté que ceux qui... je crois qu'il faut vraiment voir aujourd'hui que c'est ce qui est en cause.
Alors, en tout cas, si vous voulez soutenir l'abbé Sulmont, il y a dans le livre au journal que vous n'avez pas manqué d'acheter toutes les adresses, mais dans mon immense générosité, je vous l'ai donné gratuitement au micro. Donc, association Sainte-Philomène, 26 chaussée Brunehaut, 80-620 Donqueur, D-O-M-Q-U-E-U-R, 26 chaussée Brunehaut, 80-620 Donqueur. Et il y a également, ça suffit, le montant de... ils arrivent à être moins chers que la griffe, encore ce coup-ci, c'est 3 € l'adhésion à l'association. Et puis, on peut savoir... Alors, je vous conseille quand même de vous abonner à son bulletin paroissial, parce que, alors, bon, il y a des moments qui sont merveilleux dedans, parce qu'il n'a pas sa langue dans sa poche, il n'a pas non plus son goupillon dans sa poche, et il sait bien s'en servir, et c'est vraiment formidable. Il y a des moments de grand bonheur à lire, hein. Alors ça, c'est beaucoup, beaucoup plus cher, c'est 13 € pour l'année, quand même. Ne vous attendez pas à voir arriver une version nouvelle de Spectacle du Monde, non, c'est plutôt Ronéo, voilà. Mais c'est très, très drôle. Alors là, c'est facile, vous envoyez 13 € à Monsieur le curé de Donqueur, 8620 Donqueur. Voilà, le curé de Donqueur, 8620 Donqueur, c'est l'abbé Sulmont. Et ça fait 30 ans que je le connais, et c'est quand même un sacré bonhomme. Ça. Avec des curés comme ça, vous nous en donnez 10, on reprend Sainte-Sophie. Hein.
Dans la rubrique « Nos auditeurs savent tout », le survol de Paris, c'est 6600 pieds.
Tiens,
et, 6600, c'est... Et, attention, les réglementations aériennes interdisent le survol de Paris à tout aéronef qui n'est pas au minimum bimoteur. Au cas où il y a une panne sur un des moteurs, l'autre fonctionne jusqu'à l'atterrissage.
Mais alors, les hélicoptères, ce sont des aéronefs, et on en voit sans arrêt.
Ils tombent doucement comme une feuille morte. Il a demandé aux Américains.
Et on vous demande, par ailleurs, si vous connaissez le livre de Daniel Réju, Le troisième secret de Fatima, où l'auteur suggère fortement que ce troisième secret concerne la fusion nécessaire avec l'islam. Et on vous donne un numéro de téléphone.
Non, je ne connais pas, puis à vrai dire, ça ne me tente pas beaucoup, ça ne paraît pas bien, bien, bien sérieux tout ça. Quoique c'est en cours, puisqu'ils sont en train de transformer Fatima en lieu de culte œcuménique.
Et puis alors on vous pose une question, je ne suis pas sûre que vous soyez d'accord. Pourra-t-on faire des photocopies de votre article sur les aéroports et le distribuer à condition que ce soit écrit en dessous
des photocopies
libre journal
voulez,
et pas, l'adresse.
Je ne suis pas flic, moi je ne vais pas empêcher qu'on fasse des photocopies de mon journal.
Oui, mais si ça fait de la pub, il faut l'adresse.
Mais il n'y a pas l'adresse. Ah oui, oui,
bah, si il faut la mettre.
Oui, mettez, voilà, oui. Enfin, oui, d'accord. Mettez l'adresse. Soyez gentil de mettre l'adresse sur vos photocopies.
Et une auditrice dit, êtes-vous au courant que le vendredi soir sur M6 à 20h30, il y aura une émission sur la culture gay et qui pourrait devenir un rendez-vous régulier.
Je n'en reviens pas. C'est un sujet dont personne ne parle. Et d'un seul coup, une émission. Enfin, on va parler de ça. J'espère qu'on ne va pas faire de la phobophobie, la totophobie, la tataphobie. Voilà.
Et dans le cadre des interdits, peut-on aller à l'école avec une mèche sur le front et une petite moustache?
Ça dépend à quel âge. Ah, pas d'hitlérophobie, s'il vous plaît. Hein. Voilà, c'est tout?
Oui, pour le moment.
Bon. Est-ce que vous voulez faire des annonces avant qu'on se quitte?
Bon, si vous voulez.
Parce que comme ça, oui, parce que je ne vais pas donner la parole à François-Xavier de Villemagne pour 4 minutes, 5 minutes. Donc on va faire les annonces tout de suite, comme ça, ça sera une chose.
Avant qu'on se quitte, ne nous quittez pas, chers auditeurs, avant qu'on se sépare, le temps de la pause technique, rassurez-vous.
Samedi prochain, 24 janvier, de 16h à 18h30, la librairie France Livre accueillera François-Xavier de Villemagne, qui dédicacera Pèlerin d'Orient à la librairie France Livre, 6 rue du Petit Pont, Paris 5e. Métro RER, Saint-Michel, Notre-Dame.
Vous voyez comment on est malin avec... Moi, j'ai un deal avec la France Livre. J'invite un écrivain, il l'invite à signer son livre. C'est diabolique comme système.
Et ils préviennent avec des annonces très bien faites qu'on n'a qu'à lire sans avoir à rectifier. C'est parfait.
On est fouté.
Alors, c'est toujours la Fraternité Saint-Pilis qui vous demande de soutenir l'église Sainte-Thérèse. Pour la cité de Jeanne d'Arc à Compiègne, qui sont en train de...
Tu n'es pas là la semaine dernière, on en a parlé pendant...
Ah oui, mais ils sont en train... Mais justement, je suis en train de le dire, là.
Ah bon, d'accord.
Je les souvenais, c'est pour ça.
Tu m'en gardes une manière dubitative.
Vous pouvez envoyer des sous, donc, à la boîte postale 40 201, 85 rue du Bataillon de France, 60 202 à Compiègne-Cédex.
Voilà.
Et puis, les dames du vestiaire de Saint-Nicolas du Chardonnay n'ont plus de vêtements d'hommes.
SOS. Les dames du vestiaire de Saint-Nicolas portent des vêtements d'hommes maintenant?
Mais non.
Qu'est-ce que c'est que cette histoire?
Non, c'est pour aider les pauvres qui n'en ont pas. Elle remercie les personnes qui pourraient en déposer à l'église 23 rue des Bernardins dans le 5e. Et aussi déposer des couvertures et des duvets si vous en avez.
Moi, j'ai plus pauvre, des couvertures, des duvets. Pourquoi pas des couettes en soie aussi?
Soupe populaire de l'Action française, le 21 janvier prochain, les royalistes d'Action française, à l'image de leur roi qui donnait l'aumône aux pauvres, iront de 18h à 21h porter assistance aux sans-abri à la gare Montparnasse. Vous pouvez prendre contact avec M. François Lebrec, 06 88 97 00 40.
Alors, il faut que je précise quand même quelque chose, c'est que la dame qui a préparé, enfin, une dame qui a préparé une partie des nourritures terrestres qui seront servies à cette occasion, est une chroniqueuse du Libre Journal qui s'appelle Anne Merlin Chazla, et elle a fait une énorme soupe aux choux avec plein de lard et plein de saucisses. C'est une bonne idée, hein? Des petits salés, des choses comme ça. Que du cochon. Ils vont se régaler, les...
Porte et liberté.
Hein, voilà.
Et ça tient chaud.
Hein, ça tient chaud au ventre.
Une autre pauvre dame dit, j'ai été agressée hier soir dans une église à Paris, dans le 19e arrondissement, mon Dieu, par un homme noir, barbu et avec une tunique à la musulmane. J'étais en train de faire ma prière, il m'a bousculée et jetée à terre.
Est-ce que cette dame a été portée plainte? Est-ce qu'elle aurait un témoin? Est-ce qu'elle a été... Il faut qu'elle aille porter plainte au commissariat de police. Il faut qu'elle saisisse la griffe si elle pense qu'elle peut avoir besoin de notre assistance.
Hein? La griffe 70, boulevard Saint-Germain. Et je signale qu'il y a un très bon moyen de défense, parce qu'on n'a plus le droit d'avoir maintenant des couteaux, des revolvers dans son sac à main, bien sûr. Même maintenant, les bombes lacrymogènes, ça devient pécamineux. Mais il y a un truc qu'on ne peut pas vous interdire, c'est la tranche de jambon. Donc quand le mec attaque, vous brandissez la tranche de jambon et vous dites je te colle ça sur la tranche si tu m'embêtes. Normalement, il doit partir en courant, puisque il est au régime.
Et on nous annonce la messe traditionnelle de Requiem pour le roi Louis XVI, co-célébrée par messieurs les abbés Néry et Michel, dimanche 25 janvier à 15h. Jusqu'à 17h. Bon, place de la Concorde.
À l'endroit de l'échafaud.
Oui. Et puis j'ai une citation de Lautréamont. Je ne sais pas si je peux vous la lire vite fait. Ô pédéraste incompréhensible, ce n'est pas moi qui lancerai des injures à votre dégradation. Ce n'est pas moi qui viendrai jeter le mépris sur votre anus. Je ne peux pas bien lire là. Il suffit que les maladies honteuses et presque incurables qui vous assiègent portent avec elles leur immanquable châtiment. Lautréamont, les champs de Maldoror.
Les champs de Maldoror, Lautréamont.
1869.
Est né à Bazette, le village où est ma maison familiale et où j'ai été élevé dans sa maison.
Coupure technique. Pour en finir provisoirement avec cette histoire de personnel des aéroports, nous recevons d'un membre des personnels d'aéroports justement qui nous écoute une information. L'information suivante nous dit une très proche collègue a fait il y a quelques mois un stage pour travailler en tant qu'agent de sécurité sur Roissy. Ses compagnons de stage étaient dans une écrasante majorité d'origine africaine, détenteurs de passeports de pays africains, et beaucoup d'entre eux parlaient un français très approximatif. La raison de cette situation semble résider dans le fait que les aéroports de Paris, mais aussi par voie de conséquence les compagnies aériennes, ne veulent pas payer le prix fort et font systématiquement appel à des agences d'intérim, comme l'a signalé Beckett à l'antenne. Voilà. C'est très intéressant. Je pense que c'est une affaire dont on n'a pas fini de parler.
Voilà une lettre qu'on peut publier dans le numéro 313 du Libre Journal.
C'est exactement notre intention, mon cher jeune camarade.
Eh bien, je vais la saisir avec les prochains articles du Divin Marquis.
Article du Marquis qui est excellent.
Je me permets
de
corriger.
Il a été sauvagement agressé l'autre jour par une dame qui a entendu que c'était le Marquis. Elle s'est précipitée en disant « Je vais vous donner deux gifles ». Alors il a dit, madame, c'est mon devoir de les accepter si tel est votre... si vraiment vous avez besoin de me les donner, alors elle a fondu. Voilà.
Je me permets de corriger respectueusement Victoria, nous sommes le 21 janvier et non le 23.
Tu dis 23?
Oui, mais ça, moi,
Oui, vous savez,
lapsus lingué.
C'est la tristesse, c'est la tristesse.
Quel délabrement, moi, j'ai connu, c'est toute jeune femme.
Il y a bien longtemps. Vous verrez quand vous aurez mon âge.
Oui. Oh, ben, je sais pas, on verra. Je serai. François-Xavier Villemagne, bonsoir.
Bonsoir.
Je vous dis bonsoir pour faire semblant, parce que ça fait quand même une heure et demie qu'on est là. Et je surveillais votre regard de temps en temps. Vous aviez l'air quand même un peu effaré. On se demande par moments si vous êtes vraiment revenu de Jérusalem, car je vous ai invité pour parler du livre que vous avez consacré à cette aventure extraordinaire, un voyage à pied de Paris à Jérusalem. Et à pied, vraiment à pied, c'est-à-dire que pas une seule fois vous n'avez pris le moindre véhicule.
Oui, voilà. Alors, pas effaré, mais je veux dire que c'était intéressant également, surtout le côté chrétien et musulman, parce que j'ai traversé à la fois les pays chrétiens en voie, il faut bien le dire, de déchristianisation, et pour certains énormément, à commencer par la France, et puis les pays de tradition orthodoxe, puisque je suis passé par l'Europe de l'Est, et puis ensuite les pays musulmans. Donc, on voit effectivement tous les changements et l'importance relative de la religion dans les différents pays.
Alors, c'est amusant parce que je me disais, est-ce que je vais lui poser ce genre de questions? J'avais peur de vous mettre mal à l'aise, mais puisque vous abordez le sujet, je vous pose la question tout de suite. Est-ce que vous avez été accueilli d'une façon vraiment différente dans les pays musulmans en tant que pèlerin chrétien, c'était évident, puisque vous alliez à Jérusalem, je pense que les gens étaient, devaient se rendre compte qu'il y avait quelque chose de ce genre. Dans les pays musulmans, dans les pays chrétiens, est-ce qu'il y a une différence d'accueil, une différence de comportement? Qu'est-ce que vous avez senti? Est-ce que vous avez senti une différence?
Voilà. Alors, je dirais que la première différence, c'est plutôt entre les pays riches et les pays pauvres. Les premières différences que j'ai vues, c'est entre l'Europe de l'Ouest et l'Europe de l'Est. C'est une banalité de le dire, mais effectivement, on a l'impression que plus les gens sont pauvres et plus ils sont accueillants, plus ils ouvrent les portes. Par ailleurs, en partant comme ça à Jérusalem à pied, je m'étais dit en partant, si par exemple je vais vers des prêtres, vers des religieux, oh, c'est quelque chose, c'est un peu leur truc, donc ils devraient mettre tout ce qu'il faut pour m'aider dans ma démarche. Et ce qui m'a surpris au début, c'est que c'était pas tout le temps le cas. Alors ça, c'est quelque chose qu'on a un petit peu de mal à intégrer et qui va un peu à contre-courant des attentes. Et puis ensuite, quand je suis passé en pays musulman, disons à dominante musulmane, parce que maintenant j'aurais du mal à dire que un pays est un pays musulman. Non, c'est un pays majoritairement musulman, mais en Turquie, en Syrie, en Jordanie, il y a évidemment des chrétiens. Et j'ai eu la chance de tomber assez souvent sur des gens très accueillants. Quand je disais je vais à Jérusalem à pied, ça faisait assez souvent résonner quelque chose d'important, parce que pour les musulmans,
c'est aussi une ville sacrée. Hein.
C'est une ville sainte d'abord, et le fait d'aller vers la ville sainte au moins une fois dans sa vie, c'est quelque chose que les musulmans doivent faire s'ils le peuvent. Et donc pour eux,
pour un peu, vous êtes un hadj.
Eh ben, on m'a appelé comme ça, oui, et ça m'a très étonné le jour où on m'a dit comme ça, au revoir Hadji François. Donc Hadji, c'est le nom de le titre un peu qu'on donne de façon respectueuse à ceux qui sont allés à la ville sainte, à La Mecque. Et d'ailleurs pour les chrétiens, ceux qui sont allés à la ville sainte, Jérusalem également.
Alors, on est entré tout de suite dans le vif du sujet, mais je me suis vraiment, je le dis, régalé à lire votre livre, qui est une merveille, qui est d'abord passionnant à lire, parce que c'est un récit de voyage, et en plus qui est plein de notations drôles, fines, qui est écrit avec beaucoup de discrétion, beaucoup de retrait, c'est-à-dire que vous ne mettez pas en avant, on n'a jamais l'impression que vous présentez ce que vous avez fait comme un exploit, évidemment, mais vous montrez bien les paysages, les gens, les rencontres, vous racontez bien les conversations. Et il y a une réflexion qui vous a été faite par un moine dans un monastère autrichien, je crois, qui vous dit, quand vous parlez, qui vous pose cette question incongrue, Sind Sie ein Aristokrat? Êtes-vous un aristocrate? Et je trouvais que c'était assez vrai, parce que la façon dont votre livre est écrit fait penser à ce qu'on imagine avoir été les conversations dans les salons entre des gens, parce que les aristocrates voyageaient énormément au 18e, notamment, et on imagine très bien qu'il va y avoir cette espèce de façon à la fois gentille, détachée, un peu ironique, de regarder les gens, et puis amicale, enfin chaleureuse, de regarder les pays et les gens qui traversaient. Et votre livre, c'est ça, c'est, on a tout le temps l'impression que quelqu'un raconte une histoire avec beaucoup d'élégance et beaucoup de détachement, et ça c'est formidable. Mais c'est d'autant plus formidable qu'on a l'impression que quelqu'un qui part en pèlerinage à Jérusalem, c'est une espèce de toqué, quoi, parce que vous aviez un poste important, enfin un poste, d'abord vous êtes très jeune, vous aviez un poste, un bon poste dans un bon établissement bancaire.
Dans une grande banque française,
Grande banque, et puis un beau jour, vous décidez que vous partez.
Voilà, donc un beau jour...
C'est un truc d'exalté, ça, c'est un truc de fou, enfin...
Un beau matin, je suis parti, donc en partant de chez moi, Paris, j'habite le premier arrondissement, je suis parti, j'ai suivi les quais de la Seine, j'ai passé la porte de Charenton, le périphérique, et puis on traversait les banlieues, et voilà, j'étais parti pour environ 8 mois pour Jérusalem.
Vous êtes parti avec un sac à dos, une paire de chaussures de marche,
voilà,
un sac à dos de 10 kilos,
à peu près, oui.
La ligne.
Alors évidemment, on fait très attention à tout ce qu'on met dans le sac à dos, parce que quand on passe des heures et des heures à marcher pendant la journée, ben tout ce qu'on porte, c'est toujours des kilos en trop. Donc quand j'ai fait mon sac, c'était plutôt la dizaine de grammes qui était mon étalon. Oui.
Est-ce que vous avez scié le manche de votre brosse à dents, par exemple, comme font les montagnards?
Alors je me suis gardé le luxe d'une brosse à dents entière. Ah, c'est vrai.
Vous n'avez pas coupé les bras et les jambes de votre petit nounours comme Monsieur Bins, qui n'arrive pas à le faire rentrer dans sa valise?
Non, en revanche, j'avais pris des guides et pour les pays que je traversais, puis je me le faisais envoyer post-restante régulièrement. Et évidemment, le guide d'un pays, moi, il y avait seulement peut-être 30 pages sur 250 qui m'intéressaient. Donc dès que je recevais le guide, je déchirais toutes les pages que j'utilisais pas, je les mettais à la poubelle. Et je disais même qu'au début...
C'est vrai que c'est un grave délit, ça, de déchirer un livre. Hein, c'est...
Ah, j'aime pas du tout faire ça. Non, ça m'arrache le cœur. Mais quand on le porte. Et donc au début, lorsque j'avais des cartes, les cartes françaises, je déchirais le lendemain, disons, la carte du trajet que j'avais parcouru la veille. Donc on gagne quoi? On gagne 20 grammes, peut-être 25 grammes, mais il n'y a strictement aucune raison d'aller porter 25 grammes de trop.
C'est une façon de brûler ses vaisseaux, c'est un geste un peu à la...
De partir comme ça?
Non, mais de détruire systématiquement toutes les traces de ce qu'on vient de traverser. Ne gardez que ces notes manuscrites, en fait, parce que c'est ce que vous avez fait.
Oui, alors ensuite, les cartes, j'avais trop de mal à les obtenir pour les torturer comme ça. Donc, à partir de la Hongrie, je gardais précieusement les cartes que j'ai renvoyées. Non, c'était beaucoup plus prosaïque. Il n'y a aucune raison d'aller porter 25 grammes si on n'en a pas besoin.
Alors, le premier jour, vous partez, vous faites 30 kilomètres... Et vous arrivez dans un endroit où vous savez pas du tout où vous allez vous arrêter, puisque vous n'avez aucun programme.
Voilà, donc je m'étais dit au début, quand je suis parti, je vais mettre un an pour aller à Jérusalem. Donc l'objectif, comme c'était au printemps de l'an 2000, je me suis dit je vais arriver à Pâques de 2001. Puis après, je me suis dit qu'un an, ça fait quand même une grosse coupure professionnelle, avec la famille, les amis, la vie sociale, etc. Donc je me suis dit, ça serait quand même bien si je pouvais faire ça en un petit peu moins longtemps. Donc je me suis donné comme but d'arriver à Jérusalem à Noël. Donc ça me laissait environ 8 mois pour arriver. Et donc ça c'est relativement court. J'avais aucune expérience de ce genre de marche au long cours. J'étais jamais allé à Saint-Jacques-de-Compostelle. Je suis parti, je dirais un petit peu le nez au vent, sans avoir aucune idée de ce qui m'attendait. Et je me disais aussi bien, dans 15 jours, je serai dans un fossé en train d'agoniser parce que j'aurais pas humain de mes forces. Donc j'avais prévu relativement peu, et seulement au départ le trajet entre Paris et Istanbul. Et donc là, j'avais environ une bande d'une centaine de kilomètres de large, dans lequel je disais, mon trajet devrait passer par là. Alors pourquoi par là? Parce que je passais par des endroits touristiques, des parcs naturels, des sentiers de grande randonnée qui m'intéressaient sur ce trajet-là. Ensuite, la marche réellement, ça se prévoyait d'abord 10 jours à l'avance, et puis ensuite 3 jours à l'avance, et puis en fonction de tout ce qui se passe, de si on est fatigué, des choses qu'il y a à voir, etc. On adapte le trajet. Donc lorsque je suis parti, je n'avais prévu aucune étape, sauf la première. En regardant la carte, je m'étais dit, voilà, je vais m'arrêter là, au bout de 30 kilomètres, la première journée. Mais je n'avais même pas choisi, j'ai même pas téléphoné dans la Océanic Initiative pour dire est-ce que vous avez un endroit pour dormir. Donc je suis arrivé dans cette première étape, au bout de 30 kilomètres. C'était Brie-Comte-Robert, voilà, une banlieue bien française. Et alors je m'étais dit quand même, au bout de la première journée, je vais prendre un hôtel parce que ce sera sûrement fatigant. Alors j'arrive à Brie-Comte-Robert, je cherche un peu dans la ville ce qu'il peut y avoir comme hôtel. Et alors, au détour d'une route, j'en trouve un, et l'enseigne c'était « À la grâce de Dieu ». Alors, j'étais évidemment stupéfait, et je suis allé voir, c'était un petit peu plus cher que ce que j'aurais voulu mettre, mais je me suis dit, avec un nom pareil, il faut absolument que je dorme là. Donc j'ai dormi à la grâce de Dieu pour cette première nuit-là. Alors j'étais étonné par le nom, et j'ai demandé à l'hôtelier l'origine. Et alors donc il m'a dit qu'il y a environ 200 ans, à une trentaine de kilomètres de Paris, une sorte de couronne, ce qui faisait à peu près une journée de marche. Bon, et je confirmais, parce qu'effectivement j'ai fait ça en une journée. il y avait toute une couronne d'auberges qui s'appelait la Grâce de Dieu, parce que la prévôté de Paris, au-delà de cette limite, n'assurait pas la sécurité des voyageurs qui, alors, ne pouvaient plus s'en remettre qu'à la Grâce de Dieu.
C'est pas de nos jours qu'on...
Mais c'était mieux qu'aujourd'hui, parce que maintenant, c'est à 200 mètres de chez toi que là, tu n'as plus la sécurité.
Vous savez, Serge, je voudrais me dépêcher, bon, parce que vous allez sûrement, à un moment ou un autre, demander à Pierre de Villemagne... François-Xavier de Villemagne, pardon. Dans quel esprit il a fait ce pèlerinage. Moi, je voudrais me dépêcher de dire que d'un point de vue sportif, c'est tout à fait remarquable. Parce que beaucoup de nos éditeurs, sûrement, n'ont jamais fait de marche prolongée. Ils s'imaginent peut-être qu'il suffit de mettre un pied devant l'autre. Mais moi, je peux vous dire que j'ai fait de modestes randonnées de 150 ou 200 kilomètres et que j'en ai vu des gens dans le fossé, comme il le disait en plaisantant tout à l'heure. Je me souviens d'un cousin qui allait partir à l'armée, qui avait 20 ans, qui était en pleine forme, et je l'ai vu dans le fossé, les quatre fers en l'air, appeler sa mère. Ouais. C'est pas facile.
C'est pas une plaisanterie, c'est sûr. Et alors, c'est d'autant moins une plaisanterie que, au début, vous n'avez pas, vous partez pas en pèlerinage, en fait. Vous ne voulez pas dire ça.
Alors, je ne veux pas le dire. Alors, ceci dit, le livre dont vous évoquiez tout à l'heure s'appelle Pèlerin d'Orient. Donc, je ne renie certainement pas.
Non, mais on a l'impression à vous lire que c'est petit à petit que cette idée s'impose, enfin, plutôt qu'elle commence à apparaître, parce que vous l'avez dès le départ. Mais au début, vous dites, je suis pas un pèlerin, c'est pas un pèlerinage. D'ailleurs, je ne vais pas vivre de mendicité comme faisaient les pèlerins. Vous partez avec de l'argent, vous arrêtez dans les hôtels. Et puis petit à petit, ça s'impose quand même.
Alors c'est vrai que moi je ne me sentais pas rentré dans le pèlerinage des autres. C'est-à-dire je n'ai pas fait ça pour faire ce que d'autres ont fait avant, à la manière dont ils l'ont fait. Beaucoup de gens pour lesquels j'ai énormément de respect, parce qu'il y a 36 000 façons de faire ce voyage vers les lieux saints. Mais moi je ne me sentais pas. Alors je me sentais pas pèlerin et je ne me disais pas pèlerin pour plusieurs raisons. Je ne voulais pas en disant voilà, je fais un pèlerinage, que les gens aient l'impression, je dise bah voilà, regardez, c'est bien, regardez-moi, je fais quelque chose de bien. Non, je voulais pas faire ça. Premièrement, deuxièmement, dans une société occidentale et française particulièrement, puisque j'ai commencé par là, qui est tout de même très, très déchristianisée, je voulais pas venir comme m'imposer et débouler comme le juste qui prétend avoir la vérité. Et je voulais que les gens, quand ils me rencontraient, ils puissent dire, ce type-là, c'est un type comme les autres. Voilà sa façon qu'il a de vivre en ce moment. Et alors en ce moment, il va à pied vers Jérusalem. Et je laissais les gens dire, oui, ça doit être un pèlerinage. Mais je voulais pas leur imposer comme ça. Et donc quand je disais, je voulais pas rentrer dans la peau des autres. Et par exemple, je refusais d'avoir un bâton, justement pour pas rentrer dans cette image d'épinal du pèlerin. Alors que honnêtement, ça sert à quelque chose un bâton, principalement
les chiens,
voilà, qui sur le voyage ont quand même été plus dangereux que les hommes. Et c'est vrai que dans certaines occasions, ça m'a cruellement manqué. Mais donc je voulais pas assumer cette image d'épinal. Et puis en fait, pourquoi je suis allé là-bas, c'était pour des raisons extrêmement personnelles. On peut le rappeler brièvement, en fait. Moi, j'étais, comme vous le disiez tout à l'heure, j'avais effectivement une profession tout à fait reconnue et ça se passait bien dans l'entreprise dans laquelle j'étais. J'étais apprécié, des relations sociales avec beaucoup de gens, extérieurement pas de problème. Et puis malgré tout ça, en fait, j'étais pas heureux dans la vie que j'avais. Et alors, bon, ça arrive à plein de gens, hein, et puis ce qui m'est arrivé, ça, voilà, c'est pas spécialement exceptionnel. Mais c'est vrai qu'il y a un moment où les choses s'accumulent, et puis on se dit non, franchement, ça peut plus durer, il faut faire quelque chose. On n'en peut plus, on peut plus continuer la vie comme ça. Alors je me suis dit, bon, il faut faire quelque chose, mais que faire? Alors, si j'allais à Jérusalem? Alors moi, j'étais jamais allé en Terre Sainte, jamais allé à Jérusalem. D'un autre côté, c'est pas magique, hein, c'est pas parce qu'on va à Jérusalem que ça va résoudre tous les problèmes. Alors je me suis dit, si j'y allais à pied, ça donnerait peut-être le temps de répondre aux questions que je me pose en chemin. Et puis sans le formuler comme ça, à la grâce de Dieu, voilà. Et donc je dirais que c'était plus pour répondre à des questions vraiment très concrètes et personnelles que j'avais, que je me suis engagé sur ce chemin-là. Donc beaucoup plus pour des raisons personnelles que pour me remettre dans la ligne des autres.
Mais c'est, bon, c'est des raisons personnelles, c'était d'ordre intime, mais c'était pas des raisons d'ordre spirituel, pas tellement, pas seulement en tout cas. Et ça, c'est venu presque.
Alors, je dirais que au fur et à mesure, bien sûr, au fur et à mesure qu'on s'approche de Jérusalem, de la Terre Sainte, le côté entre guillemets religieux s'affiche et s'affirme et devient de plus en plus important. D'un autre côté, bon, moi, ce qui me gêne dans le vocable de pèlerinage, c'est qu'on peut avoir l'impression, lorsqu'on dit un pèlerinage, que ben, la personne elle est toute la journée en train de réciter des psaumes et dire des pater et des ave du matin au soir. Bon, moi, c'est pas ça que j'ai fait, parce que tout simplement, c'est pas possible de le faire pendant 8 mois. Moi, tout simplement, ce que j'ai fait pendant 8 mois, c'est une vie différente, mais une vie normale, enfin un petit peu différente, mais avec une vie intellectuelle, une vie de relations sociales avec les gens que j'ai rencontrés, et puis c'est vrai, une vie spirituelle qui s'est nourrie de tout ce cheminement, des rencontres que j'ai eues au fil des jours, et puis de cette approche vers la Terre Sainte qui a donné un côté certainement de plus en plus spirituel au fur et à mesure de l'avance.
Mais une question purement technique en apparence. Quand vous marchez, j'ai fait un petit peu de randonnée aussi, il y a un moment où il y a un rythme qui se crée qu'on entretient dans sa tête en prononçant soit des prières, soit des chants, soit des choses aussi simples que la prière du pèlerin russe, par exemple, ou des Ave Maria, où on chante quelque chose, mais à l'intérieur de sa tête, on est obligé de chanter. Le rythme conduit, ou de parler, enfin, de dire quelque chose. Comment vous faisiez? Qu'est-ce qui vous venait à l'esprit quand vous marchiez? Est-ce que c'était plutôt des considérations, des chants profanes ou des chants religieux ou des prières ou des...
Alors, tout d'abord, je voudrais d'abord pas me démarquer complètement du côté pèlerinage. Effectivement, moi, depuis le premier jour, j'ai récité un chapelet par jour. Mmh. Bon, c'était une manière. C'est quelque chose d'ailleurs que je ne faisais pas du tout avant. Et puis quand je me suis dit, ben voilà, je vais aller dans l'inconnu, hein, vraiment. Et puis avec des choses que je n'ai absolument pas fait. Ben, le fait de réciter un chapelet, enfin de réciter, de le chanter d'ailleurs, ben je me disais c'est finalement peut-être quelque chose de solide comme un vrai pilier de cathédrale qui va m'aider pendant tous ces mois-là. Ça prend à peu près, moi ça me prenait environ 50 minutes pour chanter ce chapelet. Le reste du temps, il y a beaucoup d'autres heures de marche. Pendant qu'on marche, enfin moi du moins, j'étais pas comme le penseur hein, de Rodin en train de me poser des tas de questions philosophiques en permanence. Je crois qu'on.
Le penseur de Rodin, il marchait pas beaucoup.
Non, mais il pensait beaucoup avec le poing appuyé sur le front. Voilà. Moi, j'étais pas comme ça. Parce que tout simplement, quand on marche, on est extrêmement sollicité. Premièrement par des choses très concrètes, trouver son chemin, et puis voir les paysages au fur et à mesure, rencontrer les gens, et tout ça, ça fait beaucoup de sollicitations et alors, évidemment, il y a des jours qui sont différents, un peu plus monotones, soit parce que on est dans des paysages qui changent pas beaucoup, soit parce qu'on est dans des on traverse des agglomérations qui sont pas forcément folichonnes. Donc c'est vrai qu'il y a des moments qui sont monotones, mais de manière générale, c'est quand même émerveillant et ça change toujours, tous les jours. Et c'est ça qui est extraordinaire, c'est que c'est une vie en fait qui est extrêmement intense tous les jours.
Et la solitude, est-ce que vous avez éprouvé la solitude? Alors, pas seulement dans les campagnes, mais même...
Vous la cherchez, si j'ai bien compris.
Alors, techniquement, la solitude, c'est vrai que je l'ai éprouvée très longtemps, puisque quand je marchais... je marchais pas tous les jours. Hein, en moyenne, c'est des moyennes qui veulent rien dire, mais c'était à peu près un jour et demi de repos par semaine. Hein. Mais... donc j'étais seul peut-être 8-10 heures de la journée en train de marcher sur le bord des routes, mais je dirais que c'est pas ça qui est tellement difficile dans la solitude, parce que d'abord c'est obligé d'aller vers les gens. Par exemple, moi, si je parlais pas aux gens qui étaient sur le bord de la route, aux gens que je rencontrais à l'hôtel, etc., je ne parlais à personne, donc ça aurait été trop dur. Donc, ça me forçait à aller vers les gens. Et puis, ce qui est le plus difficile dans la solitude, c'est sans doute qu'il n'y a jamais, jamais personne pour vous prendre par la peau du cou et vous remettre sur le chemin le jour où ça ne va pas. Et c'est ça qui est vraiment difficile.
Donc, ça, c'est une discipline personnelle, c'est vous-même qui.
C'est une, ça oblige à une discipline farouche.
Les fesses,
voilà, farouche si on veut vraiment aller jusqu'au bout. Et. Un jour, quelqu'un m'a posé cette question-là et j'ai été étonné que ce soit un homme qui me la pose. Il m'a dit, il m'a demandé, est-ce que tu as éprouvé de la douceur pendant ce voyage? Et en réfléchissant, j'ai pas éprouvé beaucoup de douceur, c'est vrai. Pas parce qu'il n'y en avait pas sur le chemin, mais parce que je me disais, si jamais je me laisse aller à cette douceur-là, ben aussi bien j'aurais jamais l'énergie de repartir. Mmh. Et pourtant, il y en avait des occasions, quand on est dans un paysage sublime, quand on rencontre des gens, quand on passe une soirée chez des gens, et qui vous disent, ah, reste encore un jour, et puis, là, on aurait envie de rester, mais il y a toujours le risque, et, aussi bien si je me laisse aller, je pourrais jamais repartir.
Alors, vous avez fait des rencontres, mais ça, c'est le bouquin, donc il faut lire ce livre, qui est, toi, je le répète, une merveille, mais vous racontez des rencontres, et même des rencontres qui ressemblent à des signes. Enfin, il y a quand même, on peut raconter cette histoire de cette femme que vous rencontrez au Tyrol.
Oui, donc j'étais dans un village qui s'appelle Zangtioan in Tirol, voilà, qui est un village de cartes postales, peut-être certains des auditeurs le connaissent. Donc vraiment sur les fonds des Alpes enneigées, on a des belles maisons peintes. Et donc j'ai passé la nuit dans une pension de famille. Et le lendemain, au moment de partir, la jeune femme qui tenait cette pension de famille me dit, donc moi je paye mon écho, et puis me dit, ah, est-ce que vous pourriez quand même mettre un petit mot dans le livre d'or, parce que c'est quand même pas si souvent quelqu'un qui va à Jérusalem. Alors très bien, évidemment, je mets un petit mot gentil dans le livre d'or. Et puis au moment où j'allais partir, elle ouvre son portefeuille, puis elle prend 100 shillings. Et alors elle me dit, est-ce que vous pourriez mettre un cierge pour moi à Jérusalem? Donc, et puis elle me tend le billet pour que je paye entre le cierge. Et parce que, en fait, avec mon mari, on voudrait bien avoir des enfants. Et jusqu'à présent, on n'a pas réussi à en avoir. Donc, quand vous arrivez là-bas, mettez un cierge pour nous. Alors évidemment, je lui dis bien sûr. Et puis je lui ai demandé son adresse. Et puis donc après, je lui ai écrit de Jérusalem en lui disant, voilà, ça y est, je suis arrivé. La nuit de Noël, j'ai mis un cierge pour vous à Bethléem. Donc, pour elle, et puis pour tous ceux qui, soit en le disant, comme cette jeune femme très touchante, soit sans me le dire, mais je le sentais quand même, pour tous ces gens qui m'ont un peu confié leur espérance en chemin. Ce qui était assez étonnant, c'est que j'avais l'impression que il y a des gens avec qui, évidemment, comme partout, il y a des gens avec qui le courant passe très bien. Et puis j'avais l'impression que certaines personnes, peut-être que je faisais un peu le voyage pour eux. Et c'est des personnes qui, presque sans le savoir, m'ont beaucoup aidé les jours où ça allait un peu moins bien. Parce que eux, quand je leur disais je vais à Jérusalem à pied, ils me croyaient, eux. Ils me croyaient, ils en étaient peut-être encore plus sûrs que moi. Et donc c'était vraiment des gens qui me tiraient, qui me poussaient dans le quand j'étais un petit peu plus seul, et je me disais non, vraiment pour eux je peux pas lâcher. Ça serait un peu couper leur rêve, quoi. Il faut vraiment que j'aille au bout et que j'aille aussi pour eux.
Et puis il y a un signe quand même. Alors pour en finir avec l'histoire de cette jeune femme de Sanctuane, quand vous arrivez en Terre Sainte.
Oui, donc voilà, je suis arrivé à Noël à Jérusalem et Bethléem, et donc les premiers jours de janvier, je prends une dizaine de jours de vacances en Égypte, donc je vais au bord de la mer, et puis je vais au Sinaï, au monastère Sainte-Catherine. Et donc là, je rencontre, il y a quelques touristes, il n'y avait pas énormément de monde, et il y avait un Autrichien. Là, il était ingénieur, il cherchait de l'eau dans le désert. Alors, j'espère qu'il l'a trouvé. Et donc, on commence à discuter. Alors, évidemment, on raconte un peu son histoire, et la mienne devient assez rapidement le centre de la discussion. Alors, il me demande, par où t'es passé. Alors, je cite quelques endroits en Autriche, et je lui cite Saint-Étienne in Tirol. Et ça, alors, pas possible. Et tu connais, chez qui tu... qui es-tu rencontré là-bas? La seule, cette personne. Ah, ça alors, c'est ma belle-sœur. Et donc, à 5000 km de là, en haut du mont Sinaï, j'ai rencontré le beau-frère de cette jeune femme si touchante qui m'avait confié son intention d'avoir des enfants.
Il y a beaucoup, beaucoup d'anecdotes du même genre dans ce livre. Il y a notamment ce personnage que vous rencontrez à peu près tous les 1000 km. Vous rencontrez 3 ou 4 fois ou 5 fois pendant le voyage.
Oui, un Américain, c'est ça?
C'est américain, oui.
Oui, alors ça, c'est vraiment une rencontre extrêmement étonnante. Je suis arrivé à Istanbul. j'ai pris mes quartiers à l'auberge de jeunesse qui est près de Sainte-Sophie. Et donc, c'est des chambres de 4 ou 5 lits. Et un soir, le type qui est en face, c'est un Américain qui devait avoir 32, 33 ans à peu près. On discute, c'est toujours les mêmes discussions. Alors, qu'est-ce que tu fais, d'où tu viens, où tu vas, qu'est-ce que tu fais? Et alors, ce type-là, je découvre que il arrive d'Istanbul, il arrive de New York en avion, il part d'Istanbul à pied et il va jusqu'au Soudan. Et donc, il va passer par Jérusalem. On était aussi étonnés l'un que l'autre de se trouver des compagnons sur ce genre de route, parce qu'évidemment, ça court pas les rues, les gens qui font tous ces routes à pied. Et alors, ce jeune Américain, non seulement il allait là au Soudan, mais ça fait à peu près 17 ans qu'il marchait, donc il avait fait déjà 70 000 km à pied dans tous les pays du monde. Et voilà, donc alors, bon, on a discuté quelques jours, et puis après, on est parti. Chacun de son côté, parce que dans ce genre d'aventure, on a un petit peu chacun son histoire, sa façon de. Et donc on s'était donné un vague rendez-vous à Jérusalem, et puis voilà. Je connaissais juste son prénom, pas son nom. Et puis donc environ 6 semaines après, 40 jours après, après avoir passé les montagnes qui sont au sud de la Turquie, sur un coin de route. Ben, je tombe sur le dit Laurence. Vraiment, sur un coin de route, je vois de loin un routard qui me fait un signe, et c'était lui. Alors qu'on avait suivi des routes complètement différentes. Moi, j'avais fait 1200 km sur cette période-là. Lui en avait fait 1000. Et on s'est retrouvés comme ça. On s'est à nouveau séparés pour marcher. On s'est redonné un rendez-vous à Jérusalem. Quand je suis arrivé à Jérusalem, je l'ai pas vu. Donc, j'ai toujours pas son nom. Bon, et puis donc, comme je disais, j'ai pris des vacances en Égypte. Et donc, encore un mois et demi après, sur une plage le long de la mer Rouge, sur qui je tombe, le fameux Laurence. Voilà, donc en 3 mois, sur un espace de 3000 km environ, on s'est retrouvé 3 fois.
Voilà, il faut lire ce livre qui est vraiment très très, qui est beau, qui est remarquablement écrit et qui est surtout, enfin et en plus, pas surtout, mais en plus, je l'ai déjà dit, il y a un formidable travail d'éditeur, car c'est un livre qui est présenté en couleur, il y a 100 photos couleur à l'intérieur.
Voilà, il y a
sur
des
très beaux papiers.
Il y a 2 cahiers de 24 pages de photos. Voilà, il y a des cartes également.
Et il est vendu 22 euros, quelque chose comme
22
ça.
22,50 euros, c'est ça.
L'éditeur, c'est Transboréal. Rue Berthollet, dans le 5e à Paris. Et d'ailleurs, ce n'est pas la première fois que nous recevons à Radio Courtoisie un auteur. Hein. Moi, j'ai rencontré dans une signature de la fête de Radio Courtoisie un jeune homme, Monsieur Huguenet, je crois, ou Husnet.
Husnet,
c'est bien ça.
Emmanuel Husnet.
Qui voyageait en kayak, lui, dans le Grand Nord. Mm-hmm. C'est vraiment des beaux livres.
Jeune Tesson, et puis Sylvain...
Sylvain Tesson et Alexandre
Sylvain
Poussin.
Tesson et
Alexandre Poussin qui avait fait...
Voilà, et Alexandre Poussin, je mélange les prénoms.
On vous demande beaucoup des nouvelles de Monsieur L'Écuyer.
Alors, Monsieur L'Écuyer, vous savez, je l'avais invité à son retour, parce que c'était le précédent
pèlerin
de Jérusalem, et on était convenu qu'il appellerait régulièrement. On l'a suivi pendant un bon moment, et puis un beau jour, il ne nous a plus suivi, lui, ou plutôt il ne nous a plus rejoint par téléphone, parce qu'il avait pris d'autres engagements. Avec d'autres moyens de communication.
Quelqu'un nous dit...
Depuis, je n'ai plus jamais eu de nouvelles.
Il a fait le pèlerinage de Jérusalem en 1999, à pied sans un sou en poche, en mendiant le gîte et le couvert.
Voilà, c'est ça, c'était très différent.
Il est arrivé à Jérusalem pour le 900e anniversaire de la prise de la ville par les croisés.
Alors lui a connu aussi beaucoup d'aventures. Il parlait aussi du comportement assez étrange de certains membres du clergé, notamment un prêtre à qui il avait demandé l'hospitalité, parce que lui était pèlerin mendiant. Et il avait demandé l'hospitalité, et le prêtre a refusé de le recevoir, mais lui a dit, si vous cherchez un abri, il y a une petite baraque là-bas, le long du cimetière, et il l'a envoyé dormir dans l'endroit du cimetière où les croque-morts jetaient les couronnes fanées avant de les emmener à la voirie. C'était un geste d'une grande charité parce que ça a certainement accéléré son accession à la sainteté.
Je tiens à dire quand même que j'ai eu des accueils de la part de religieux extraordinaires, hein. à la fois en France et ailleurs.
Donc tous ne sont pas, évidemment, c'est quand même le moindre des choses. J'ai visité, il n'y a pas tellement longtemps, l'abbé Guimary, qui est une signature du Libre Journal, qui m'a montré son petit appartement. Alors il a un bureau et une chambre spartiate, c'est pas le mot, parce que dans les spartiates il y a des semelles, tandis que là dans cette chambre il n'y a rien, c'est pas compliqué, il y a un lit, voilà, point la lit. Mais puis il y a une deuxième chambre qui est beaucoup mieux aménagée, et il m'a dit, là c'est pour recevoir des gens, le cas échéant, si quelqu'un a besoin de se loger, tout là, c'est quand même formidable. Voilà. Alors lui, vous auriez pu y aller, mais il n'est pas assez loin sur la route de Jérusalem pour que ce soit vraiment intéressant.
Et quelqu'un vous demande, il y a quelque temps, j'avais entendu dire que les douaniers israéliens confisquaient les Nouveaux Testaments comme le font les douaniers saoudiens. Est-ce que c'est exact ?
À ma connaissance, non. J'ai pas eu ce genre de problème avec les douaniers israéliens, même si le passage de la frontière a été assez
acrobatique.
Oui.
Merci beaucoup. On vous demande, Serge, si vous pouvez donner la prière du pèlerin russe, si elle est pas trop longue.
Non, elle est très très courte. C'est il faut que je me la remémore. C'est prends pitié, Seigneur.
C'est un pèlerin mendiant en général.
Oui, attends.
Le pèlerin russe.
Seigneur fils de Dieu, prends pitié de moi pécheur. Voilà, Seigneur fils de Dieu, prends pitié de moi pécheur.
Je suis sûr qu'en russe, ça a un son et surtout un rythme.
Mais quand vous marchez, je peux vous dire que ça, c'est un. Je vais me faire des ennemis encore. Mais il y a un autre pays où on pratique ce genre de choses. On appelle ça des mantras. C'est-à-dire, c'est des paroles qu'on répète et qui aident à la marche. Et ça, au bout d'un moment, ça devient même presque effrayant par la puissance que ça prend. C'est-à-dire qu'il y a un moment où on comprend vraiment ce que ça veut dire.
Est-ce que je peux ajouter un dernier et bref commentaire, Serge, avant qu'on ne rappelle les références du livre de M. de Villemagne? Je voudrais dire à nos auditeurs, certains d'entre eux peut-être s'ennuient calfeutrés chez eux ou devant la télévision, je voudrais leur dire, faites comme M. de Villemagne, peut-être que vous ne pouvez pas aller jusqu'à Jérusalem et y consacrer 8 mois, mais ne serait-ce qu'une journée. Moi, je suis frappé de voir que, par exemple, les jardins de Paris qui grouillent de monde dès qu'il y a du soleil, il suffit de 3 gouttes d'eau pour qu'on les ait pour soi tout seul. Alors, il n'y a pas que les curés qui vous accueillent. Moi, je ne sais combien de fois on m'a ouvert des portes, tout simplement parce que je passais à pied sur un sentier devant une petite maison isolée. Le gars est sorti et m'a dit, entrez. Je me souviens d'un jour de pluie dans le Lot que j'ai traversé 2 fois, tout entier. Il y a un gars qui est sorti, il m'a vu avec mon gamin qui avait 7-8 ans à l'époque. Il nous a offert une soupe chaude et c'était un laïc. Et on a bavardé un quart d'heure, le temps de se réchauffer. La vie est merveilleuse, Monsieur de Villemagne nous l'a montré tout à l'heure. Il n'y a pas besoin d'aller jusqu'à Jérusalem. Il faut se prendre par la main, il faut fermer la télé, il faut sortir de chez soi, fermer sa porte et faire une journée ou une demi-journée de randonnée ou une semaine, et on verra que la vie est merveilleuse et qu'il vous arrive des aventures et des rencontres fantastiques quand on marche.
C'est ce que François-Xavier de Villemagne a fait. Un beau matin, il est sorti de chez lui, il a fermé sa porte à double tour et vous avez fait une chose curieuse, vous avez mis la clé dans la boîte aux lettres.
Oui, voilà.
Et puis vous êtes parti.
Et puis je suis parti.
Et un auditeur nous dit, je n'ai pas été à Jérusalem, mais je suis allé plus loin, 8000 km jusqu'à l'Annapurna.
Après, il faut monter. Ça monte tout le temps pour aller à l'Annapurna.
Une auditrice nous demande alors les références du livre.
Alors le livre s'appelle Pèlerin d'Orient,
à pied jusqu'à Jérusalem.
À pied jusqu'à Jérusalem. Il est paru aux éditions Transboréales. L'adresse, Patrick, mais enfin on le trouve.
C'est rue Berthelet et c'est dans l'annuaire, mais enfin je pense que c'est dans toutes les librairies et même quelques mauvaises.
Ouais. Voilà, et puis.
Il coûte combien ?
22,50 €.
C'est
22,50 €.
Et vous pouvez le trouver donc à la librairie France Livre où vous allez signer, François-Xavier Villemagne.
Samedi. Ce samedi. Ah. Voilà, donc Pèlerin d'Orient, et je vous rappelle également,
il y a un site internet,
qui s'appelle www.jerusalem-pedibus.net. Donc,
www.jerusalem-pedibus.net,
ça veut dire par les pieds,
point net.
Voilà. Pas en bus.
Par les pieds, avec, on disait, pedibus
conjambis. Point net, N-E-T.
C'est samedi à 14h que vous signez.
Entre 16h et 18h30.
À la librairie France Livre.
6 rue du Petit Pont, Paris 5e.
Voilà. Alors, une autre sorte de pèlerin. Maintenant, je me tourne vers mon excellent camarade Christian de la Mazière, qui a pèleriné sur d'autres chemins il y a fort longtemps, mais qui est revenu. Mais si tu ne t'approches pas du micro, on va pas t'entendre. À moins que tu ne veuilles pas parler, ce qui est possible aussi. Mais je...
C'est bien sûr. Alors, j'ai écouté tellement de choses tout à fait épatantes et drôles.
C'est impressionnant quand même cette aventure.
Il faut lire ce livre. J'ai vraiment été très intéressé.
Alors, toi tu avais écrit il y a 20 ans, 25 ans maintenant, Le rêveur casqué, qui a été un choc pour beaucoup, beaucoup de gens qui ont découvert qui était Christian de la Mazière, ceux qui l'avaient déjà découvert d'ailleurs dans le film Le chagrin et la pitié, où tu as fait ton outing. C'est comme ça qu'on dit maintenant.
C'était en quelle année?
Je crois surtout, ce qui a été intéressant, c'est que ce sont les Américains et les Anglais qui ont été particulièrement très intéressés sur cette aventure dont ils connaissaient très bien les tenants et les aboutissants.
Alors, pour ceux qui ne seraient pas au courant, s'il y en a, Christian de la Mazière s'est engagé le 6 juin 44 dans l'armée allemande, ce qui est quand même pas... peut-être la date idéale pour faire ça, mais bon. Pourquoi c'est raconté dans le livre? On n'a pas beaucoup parlé du rêveur casqué, parce que on en a énormément parlé. Il est encore en vente, on le trouve encore, il a été réédité.
Il est surtout de retour en vente.
Ouais. Et c'est un formidable bouquin, ça vraiment passionnant. Et puis après, silence, c'est-à-dire que pendant des années, Christian n'a plus écrit que des articles, et... Il y a quelques temps, stupeur générale, il publie un livre qui s'appelle, cette fois-ci, Le rêveur blessé. Et je parlais d'outing d'une façon ironique à l'instant, parce que c'est vrai qu'il y a 30 ans, peut-être moins que maintenant, maintenant ça serait pratiquement impossible, mais il y a 30 ans, il fallait un sacré courage pour arriver devant une caméra et dire, voilà, moi j'ai combattu sur le front de l'Est, dans les rangs de l'armée allemande, après avoir été officier aviateur en France, et je me suis engagé dans l'armée allemande parce que j'avais, en tant que journaliste, fait des articles qui avaient conduit des jeunes à faire à prendre cette décision, et j'ai trouvé le 6 juin 44, au moment du débarquement, que moi qui les avais envoyés là-bas, je pouvais vraiment pas faire moins que de les rejoindre. Bon, mais je trouve qu'il y a presque plus de courage dans le la rupture des secrets les plus intimes dans le rêveur blessé.
Moi, je crois que c'est en effet la majorité des gens ont beaucoup de choses à dire pour leur famille, pour les gens avec lesquels ils ont vécu, les amours ou les tristesses, tout ce que l'on veut. Et cette volonté de ne rien dire, elle date depuis très très longtemps dans nos familles. C'est une chose qui existe en permanence.
Mais je dirais surtout dans des familles comme la tienne, famille d'officiers, famille d'aristocrates, ouais, où on ne parle pas, ton père ne parle pas, très peu. Donc c'est des familles où, on sait se tenir.
Exactement.
Il y a comme on dit aussi aujourd'hui, il y a un non-dit permanent. Il y a plein de choses qui se passent. On devine, qu'on sait, etc. Mais personne n'en parle. Et je trouve que de briser cette espèce de loi du silence pour un homme qui arrive au soir de sa vie, il y a une espèce de, je sais pas comment dire, de courage formidable. Enfin,
je crois que c'est venu d'une façon tout à fait banale, presque, c'est la prison. C'est que dès le moment où on est condamné, dès le moment où on nous emmène d'un endroit à un autre et sans arrêt avec des discussions permanentes pour savoir ce que l'on peut représenter, ce que l'on est, si on mérite quoi que ce soit, ou si c'est la honte pour à jamais dit. C'est une étude très difficile. beaucoup plus difficile que les études que l'on passe à l'école ou en classe par la suite, ou tout ce que l'on veut. C'est quelque chose qui a une importance considérable, c'est que l'on s'aperçoit que la majorité des êtres humains qui font partie du pays où on est ont envie de savoir pourquoi on a fait quelque chose. Ils sont pas très, très soucieux, ils ne savent pas exactement ce qui s'est dit. Certains ont beaucoup à parler. L'héroïsme, c'est quelque chose qui dure pendant très longtemps, pendant des dates très longues, parce que ça, les gens ont besoin de dire ce qu'ils ont à dire. Et j'avais remarqué que en sortant de prison, etc., la majorité des attitudes étaient se taire. Essayer de se refaire, de créer quelque part et de se taire. Et je ne suis pas très partisan de me taire.
Alors ça, c'est l'explication du premier livre, et c'est l'explication du deuxième aussi, parce que, alors, le deuxième, ce rêveur blessé, il est très curieux. C'est-à-dire que c'est d'abord une autobiographie de la deuxième partie de ta vie.
Oui. Hein.
Cette aventure extraordinaire d'un homme qui, ayant combattu sous l'uniforme allemand, arrive en France et va rentrer dans le show business. C'est invraisemblable, enfin, on n'imagine pas une chose pareille. Tu vas être l'organisateur de, enfin, l'attaché de presse de la Kermesse aux Étoiles, qui était un événement énorme parisien, un événement parisien énorme à cette époque-là. Et donc, il y a tous ces récits que tu racontes, les gens que tu as connus, que tu as fréquentés, les vedettes, les femmes que tu as aimées, hein, qui étaient des grandes vedettes, avec lesquelles tu as eu soit des relations extrêmement intimes, soit des amitiés très profondes. Il y a Dalida, il y a Juliette Gréco, il y a des femmes comme ça. Il y a des hommes que tu as connus et dont tu racontes certains traits qui sont drôles comme tout. Je pense à, par exemple, Gabin, où tu racontes la terreur de Gabin quand il passait devant une usine. Tu le conduisais en voiture, et quand il passait devant une usine et qu'il s'enfonçait la tête dans les épaules, il voulait absolument pas voir l'usine parce que il avait l'impression qu'elle allait se jeter sur lui pour l'envoyer à la chaîne. Quoi. Et ça, c'est le côté très marrant, très parisien, très souvenir anecdotique, etc. Mais derrière tout ça, comme bien blotti au fond de cet univers un peu de mousse et de strass et tout, il y a la vérité profonde qui est la vérité de toute ta vie. Quoi.
Je crois qu'il était nécessaire, en ce qui me concerne, puisque d'un seul coup, à travers le chagrin et la pitié, mais par la suite, avec tous les gens qui ont eu la gentillesse de me faire travailler au milieu d'eux, qui c'était la fin de la guerre. Les gens avaient beaucoup de choses à dire, et notamment tous ceux qui avaient continué à écrire des livres pendant l'occupation, qui ont continué à vivre d'une façon presque normale pour certains. C'est vrai que Paris, la France, a été quelque chose de tout à fait exceptionnel. C'est qu'au dernier moment où ils ont eu envie de tuer, assassiner tous les Allemands qui étaient là. Mais avant, ça ne se passait pas comme ça. Donc les gens dînaient, déjeunaient dans les mêmes endroits que les Allemands. Il y avait des liens qui méritaient il était temps de rappeler cette attitude que les uns et les autres avaient, et même certains grands héros de la résistance, on les a connus avant d'être ces grands héros de la résistance, d'être des grands copains de gens allemands qui étaient des hommes très, très acceptés et des hommes que l'on pouvait, avec lesquels on pouvait discuter.
Il y a une autre chose qui apparaît dans le deuxième livre, c'est la différence très très forte entre le comportement des Français juste après la libération, disons juste après, dans les 10 années qui ont suivi la libération, au moment où tu as retrouvé la liberté, et leur comportement aujourd'hui. C'est-à-dire qu'en fait, on a l'impression que les gens qui avaient vraiment vécu ces événements qui avait vécu l'occupation, qui avait vécu la collaboration, qui avait vécu la résistance, qui s'était battu dans un camp ou dans l'autre, était beaucoup plus... comment dirais-je, pas tolérant, c'est pas le mot, mais beaucoup plus prêt à discuter avec l'adversaire ou avec l'ennemi que aujourd'hui ne le sont des gens qui n'ont absolument rien connu, parce que comme moi ils sont nés après la guerre. Et aujourd'hui, ce que tu racontes dans ton livre, c'est même pas imaginable. C'est-à-dire, aujourd'hui on voit traquer des vieillards de 95 ans parce qu'ils ont porté un uniforme ONI. Je parle de l'uniforme allemand, parce que s'ils ont porté l'uniforme de l'armée rouge, ils risquent rien. Mais on continue à les traquer. Récemment, en Autriche, on a offert des primes des primes importantes aux gens qui dénonçaient leurs voisins s'ils avaient le soupçon que ces voisins avaient prêté la main au régime hitlérien. Et je vois par un message, là, un message qu'on reçoit, que cette espèce de délire méchant, mauvais, délateur des tondeurs de femmes et des pendeurs d'hommes, il est encore plus vivant en France aujourd'hui qu'il ne l'était il y a 50 ans. Ça apparaît dans ce livre. Quand on lit ton histoire, ce garçon qui sort de prison après avoir purgé une peine lourde parce qu'il était officier dans l'armée allemande et qui se trouve... accepté dans un milieu où normalement on aurait dû être épouvanté par des gens qui savaient aussi, parce qu'il y avait ceux qui ne savaient pas, mais il y en avait beaucoup qui savaient.
Mais je crois que ce que j'ai dit tout à l'heure tient assez debout, c'est-à-dire que les gens qui ont vécu pendant la période d'occupation ont vu ce qui s'est passé. Ils ont tenté de survivre pour les uns et les autres. Certains avaient l'intention de se battre dès qu'ils pourraient le faire contre les Allemands. Puis il y en a d'autres qui, après tout, pouvaient comprendre aussi ce qu'étaient les Allemands, qui n'étaient pas là non plus pour massacrer, comme on a bien voulu raconter.
Dans la caricature qu'on donne de la France de cette époque-là, aujourd'hui... m'inspire toujours de réflexions. Premier, on parle de la résistance rail, des soldats du rail. Il faut quand même dire une fois encore, comme je l'ai dit plusieurs fois à ce micro, que pendant toute l'occupation allemande, il n'y a pas eu, on peut en parler aujourd'hui, c'est le jour ou jamais, il n'y a pas eu une demi-heure de grève des chemins de fer en France.
Oui.
Les gars, ils ont fait leur boulot, on leur disait vous allez transporter 200 juifs en Allemagne, ils prenaient 200 juifs, ils prenaient la locomotive et ils y allaient. Il n'y a pas eu une demi-heure de grève. Et de même dans la presse où la CGT et le Parti communiste à la fin de la guerre ont profité de la situation pour s'emparer des biens de presse avec l'assistance bienveillante de Monsieur Bloch, il n'y a pas eu une demi-journée de grève dans la presse parisienne pendant toute l'occupation.
Il n'y a eu que deux assassinats pendant assez longtemps. Voilà.
Alors, on a l'impression aujourd'hui que la France entière a été dressée comme un seul homme, soit pour collaborer, d'ailleurs on ne sait pas très bien pourquoi elle était dressée, soit tantôt, le lundi on nous dit que la France était uniquement constituée de collabos, le mardi on nous explique qu'elle était uniquement constituée de résistants, ça dépend de celui qui parle, ça dépend du moment où on parle, ça dépend de l'anniversaire. Quand c'est le 8 mai, toute la France était résistante. Quand c'est l'anniversaire de la rafle du Veldiv, toute la France était collabos. On ne sait pas très bien. À mon avis, il devait y avoir des gens qui succédait, il y en avait qui partaient en vacances,
oui, je
ne sais pas trop. C'est pour ça qu'il faut lire, d'une part...
Parce que ce n'était pas comme aujourd'hui, quelques milliers de résistants, quelques milliers de collabos,
oui, c'est ce que je crois.
Et des millions d'attentistes, comme aujourd'hui.
D'attentistes, c'est facile à dire.
Oui.
C'est des gens qui n'avaient probablement pas beaucoup de moyens d'intervenir, parce qu'aujourd'hui, on nous parle de résistance, mais résistance avec quoi, hein? On va prendre des louches dans nos cuisines pour aller taper sur la tête de l'envahisseur, ça veut dire ça. C'est trop facile de jouer à ce jeu. Il y a un mensonge historique qu'il faudrait réviser pour le compte.
Il y avait quand même du matériel un peu partout, parce que les gens avaient ce matériel déjà avant la guerre entre la France et l'Allemagne.
Alors, tiens, voilà un auditeur qui dit « J'ai lu les deux livres de Christian de Lamazière. Le premier rêveur a été un tel choc pour moi que j'attendais beaucoup du rêveur blessé. À travers ces deux histoires, celle d'un homme debout, j'ai compris ce que noblesse signifiait. » C'est joli, ça. C'est tout à fait ce que je pense aussi. Mais je voudrais essayer de t'arracher ce secret. Finalement, qui est la clé de ta vie? Parce que ce jeune homme qui fait des choses... Bon, d'abord, devenir pilote à l'époque, c'était quand même pas... C'était pas évident. Hein. Je crois que il y a eu une période où sur 110 avions qui décollaient, il y en avait deux qui revenaient. Hein.
Oui.
Donc, c'était pas un choix de toute tranquillité d'être pilote en 1939. Ensuite, de faire le choix de la presse collaborationniste à Paris, c'était pas forcément évident non plus. Rien ne t'y obligeait.
Non.
Financièrement, t'étais pas obligé de faire ce genre de choses. Cet engagement le 6 juin 44 qui sonne comme un défi, et puis ensuite, ton comportement par la suite, qui reste un comportement de fidélité, une certaine conception de l'existence, un homme debout, comme dit notre auditeur, il y a une clé là-dedans.
Il faut pas oublier non plus que il y avait beaucoup de jeunes, des jeunes comme moi, qui pendant leurs études, pendant c'est une époque où tout ce qui était important pour la vie ou la survie de la France existait auprès des jeunes. Et bien sûr, des gens âgés qui étaient à la tête de choses tout à fait importantes de l'époque.
Mais tu veux dire qu'il y avait une formation, un environnement culturel,
exactement.
Des comportements qui amenaient à faire certains choix.
Il ne faut pas oublier qu'à cette époque-là, la jeunesse française était dans les classes, dans les écoles et dans les classes, avec des gens de droite ou des gens de gauche, comme professeurs. Et tout ça a joué beaucoup, énormément. Ça bougeait pourquoi? Parce que la France entière a commencé à bouger. La guerre avec l'Allemagne n'est pas intervenue tout de suite, mais bien avant, il y avait des luttes très sérieuses et très vastes. Donc il n'y avait pas de raison. D'autre part, il faut dire que l'armée française et la façon dont elle était habillée, tenue en haut pour le combat, etc., et du jour au lendemain, les gens ont vu ce qu'était l'Allemagne nouvelle, ça a été un étonnement tout à fait étonnant. De surcroît, ils ont été particulièrement corrects quand ils ont conquis une partie de la France. Ils n'ont rien fait pour démolir ou tuer ou assassiner. Beaucoup, il y a eu certaines choses qui sont arrivées parce qu'il y a eu
aussi une guerre d'abord.
Une guerre, mais ils ont tout fait à ce moment-là pour faire en sorte que eux, les Allemands, soient respectés. Ça a été le cas. Les gens n'ont pas voulu le croire à un certain moment. Et quand le chagrin et la pitié est sorti, et qu'à travers cela, on m'a demandé ce que j'en pensais, que ce que j'ai pu dire à l'époque, plus personne n'a rien dit, parce que tout le monde a trouvé... beaucoup de gens qui avaient des choses à dire, comment ça s'était passé, comment ils avaient vu, comment les choses avaient été exactes, comme j'avais eu la chance de pouvoir le dire. Donc ça a été très vite fait, et il est vrai que par la suite, ça m'a permis de pouvoir continuer ce que j'avais l'intention que j'avais de dire sur toute cette période. Personne ne m'a attaqué, personne ne m'a insulté, personne n'a tenté de me faire les choses les plus épouvantables comme certains reçoivent en ce moment dans notre pays. Donc je n'ai pas du tout, de crainte d'avoir fait peur à beaucoup. C'est pas vrai, tout le monde s'est retrouvé tel qu'ils étaient, tout au moins ceux qui étaient à Paris, et aux environs de Paris et même dans le reste de la France.
Merci Christian. Il faut lire ce livre parce que le secret ne le dira pas, donc vous le lirez dans ce livre. Vraiment, Le Révérend Blessé, il paraît aux éditions de Fallois. Et puis relisez donc Le Rêveur Casqué, c'est un plaisir qu'on ne se.
C'est une question personnelle. Aimez-vous toujours les chats, monsieur de la Mazière? Les chats?
Oui, oui, ben, oui, bien sûr. Mais maintenant, je les aime chez mes amis.
C'est comme les bateaux, les piscines et les maisons de campagne.
Chez mes amis, parce que les chats, on est obligé de les transporter à chaque fois. Et les chats, ils savent ce qu'ils ont envie de faire. C'est pas drôle, dans certains cas.
Merci, Christian. On change complètement de sujet. Encore qu'on reste dans l'histoire. Oui, c'est de moi qu'on peut dire, on change vraiment de sujet. On va, je reçois donc François d'Ormesson et Jean-Pierre Thomas. François d'Ormesson, on va régler la question tout de suite. Vous êtes, quels sont vos liens avec Olivier?
Son neveu direct.
Voilà, bon, comme ça, parce qu'on va nous poser la question, ça va plus vite de répondre tout de suite.
Vous êtes donc le neveu de Jean.
De Jean et d'Olivier. Et vous êtes, premièrement, l'homme qui a ressuscité, on peut dire, Méréville, le château et le jardin de Méréville.
C'est un assez joli mot, ressuscité, je dirais plutôt sauvé, c'est-à-dire que j'ai sorti de l'oubli le jardin de Méréville, qui officiellement, hier, le 19, non, c'est avant-hier, officiellement, les travaux de réhabilitation ou de renaissance ont commencé. Les premiers pas sont enclenchés enfin.
Alors, ce château de Méréville, on va en parler un petit peu, mais on va en parler à travers un homme auquel vous venez de consacrer avec Jean-Pierre Thomas un livre excellent, remarquable, une biographie, et qui était un homme mystère, et c'est même incroyable quand on lit votre livre. Cet homme s'appelait Jean de Laborde. C'est probablement un des personnages les plus importants du siècle de Louis XV. Et je dois vous avouer que, bon, je suis pas historien, mais j'ai posé la question tout à l'heure à Bernard Anthony, qui est béarnais, comme Jean de Laborde, et qui ne savait pas du tout qui était Jean de Laborde. Et j'ai posé la question à plusieurs amis. Personne ne connaît Jean de Laborde, ce qui était ahurissant quand on sait...
Jean-Joseph.
Jean-Joseph de Laborde.
Jean-Joseph de Laborde.
Personne ne sait ce qu'il a fait. Alors, c'est tout à fait stupéfiant, parce que c'est un personnage énorme, enfin, tout à fait considérable. Il n'y a pas... Dans le siècle d'aujourd'hui, si on voulait faire une comparaison très très lointaine, on pourrait penser à un personnage dans le genre de Soros. Toute chose mise à part, toute proportion. Comme l'importance politique et financière du personnage, ça évoque ça. C'est un énorme bonhomme dans la vie politique et financière du siècle de Louis XV. Or, personne n'avait avant vous, consacré un travail, si
peut-être quelques...
Jean-Pierre Thomas.
Oui, quelques universitaires quand même avaient travaillé là-dessus. Mais je crois que ce qu'il faut dire, c'est qu'en fait, l'université refusait effectivement longtemps l'histoire financière et économique. Et il est certain qu'on n'aurait pas pu écrire ce livre il y a 20 ans, il y a 30 ans. On nous aurait dit que Laborde était un affameur de peuple, enfin, etc. Et je crois que les mentalités ont changé. Maintenant, il y a un institut de l'histoire de la haute banque. Et je crois que d'une façon très déculpabilisé, on peut aujourd'hui parler d'un homme qui a gagné de l'argent, beaucoup, surtout quand on sait qu'il partait de rien.
Ce que je vais vous demander pendant 5 minutes, c'est de nous présenter le personnage, depuis sa naissance, pour qu'on sache de qui on parle. Alors, je ne sais pas qui veut le faire, est-ce que c'est M. Dormesson, est-ce que c'est...
Non, mais je voudrais revenir, on va le faire ensemble, de toute façon, ce livre est un livre, un ouvrage commun. Vous avez essayé de situer Jean-Joseph de Laborde, je trouve ça tout à fait intéressant. Vous avez parlé du 18e, c'est le plus grand banquier du 18e, le plus grand financier au sens noble du mot et non pas banquier. En revanche, on pourrait dire qu'au 17e, il y avait eu Samuel Bernard et au 19e, il y aura Rothschild. Et donc, dans la lignée, dans l'approche qu'il a faite, en effet, Jean-Joseph de Laborde est l'homme de finance le plus important et le plus intéressant.
Beaucoup d'auditeurs doivent se demander pourquoi vous passez l'as sous silence.
Ah, mais c'est pas pareil, parce que là, c'est Laborde est à la fois un banquier et un financier. Alors, je crois qu'il faut effectivement, peut-être pour les auditeurs, donner la différence entre les deux choses du XVIIIe siècle. La finance, à l'époque, est contrôlée par l'État. Et donc, pour être financier, ce qui est le cas de Laborde, il faut être notamment catholique, ce qui est absolument fondamental. Naturellement en France, puisque c'est un État catholique. En revanche, pour être banquier, c'est une profession libre. Les banquiers sont des marchands comme les autres. Au XVIIIe siècle, où vous vendiez... de l'argent au couvendier du savon de Marseille, c'est exactement la même chose. D'ailleurs, alors, la curiosité de Laborde est qu'il est à la fois banquier, marchand, financier, etc.
Voilà. Parti de rien, avez-vous dit. Alors, on résume un peu sa carrière.
Oui, parti de rien. Disons que c'est effectivement un petit Béarnais qui est né en Espagne, d'une famille de Béarnais installés en Espagne, qui était souvent le cas, effectivement, dans les zones frontalières. Et qui, enfin, parti de rien, ce sont des tout petits notables du commerce, mais qui va très très rapidement créer sa propre société. En fait, c'est un garçon qui est mis au travail, mais il n'est pas le seul à l'époque. À 10 ans, il est mis en apprentissage. Il faut quand même savoir le rythme de travail au siècle des Lumières. Il travaille tous les jours de 6h du matin à minuit, et on s'arrête le dimanche 1h pour aller à la messe. Bon, vous direz que les fils de paysans, c'était pareil. Les cadets militaires dans les écoles, bon, nous sommes encore dans une société où il n'y a pas ce mot terrible, les galvaudés d'aujourd'hui, l'adolescence. C'est-à-dire qu'on quitte l'enfance et on entre dans l'âge adulte. L'adolescence, ça n'existe pas. Que vous soyez roi ou paysan, vous êtes apte, à partir de 10 ans, à faire le travail que vous devez faire. Voilà.
On poursuit le résumé de sa carrière. Donc maintenant, il a 12 ans, il est apprenti, il travaille de 6
Alors, il travaille effectivement dans la maison de commerce de son cousin Bayonne, qui est une grosse affaire d'import-export, même si le mot est anachronique. Il en fait très vite la première agence de France.
Pardon, voilà. ça c'est une des questions, parce que on dit ça, voilà, il rentre à 12 ans, à 20 ans, il est...
À peu près, il est milliardaire déjà, enfin on dit.
Il est milliardaire. Donc, quand vous dites qu'il en fait très vite, mais comment ça se passe pratiquement? Comment on devient? Qu'est-ce qu'il a dans la tête qui fait que ce garçon, qui est un enfant, va impressionner son oncle au point que son oncle va le prendre comme associé très rapidement, et puis son oncle va mourir et il sera son successeur. Mais quelle est sa qualité première, ou quelle est la clé de son comportement?
Alors, ce que l'on peut savoir par les archives, c'est que c'est un homme très méthodique. Enfin, c'est un homme qui tient des petits papiers, c'est un homme qui est très sérieux. Je crois qu'il construit toute sa vie, mais depuis son enfance, sur une certaine conception de l'honneur, sur sa parole. C'est un homme qui a une parole, et toute sa vie, il aura une parole. Aussi bien quand il a 14 ans, son oncle envoie en Espagne négocier des négociations commerciales.
On l'envoie toujours en Espagne pour négocier, on va retrouver ça.
Voilà. Absolument, mais même quand il a 55 ans, que son beau-frère a besoin d'argent, il écrit 3 lettres et aussitôt l'argent arrive de partout en Europe sur son nom. Il est un peu ce qu'on avait dit du duc de Richelieu, sa parole vaut un traité. Donc Laborde n'avait qu'une parole, et toute l'Europe savait que si Laborde s'engageait, l'affaire était saine, et que s'il demandait à l'époque l'argent transité par des sortes de voitures plus ou moins blindées, et bien on envoyait d'Amsterdam, de Madrid des voitures d'argent que Laborde allait forcément rembourser avec intérêt.
Le peu que j'ai trouvé sur lui en dehors de votre livre, le mot qui revient le plus souvent, c'est probité, intégrité.
Tout à fait. Il y a pratiquement personne en dit du mal, sauf Diderot, mais pour une histoire de tableau à un moment, parce que Laborde a commencé les tableaux qu'il n'a pas exposé, alors Diderot
qui voulait les voir,
mais voilà, il ne les a pas vus, donc là effectivement il y a un problème, mais autrement personne n'a jamais mis en cause la probité de Laborde.
Et donc à 20 ans, voilà, un garçon, on n'imagine pas ça, il est réellement une fortune colossale, enfin très vite, il va constituer une fortune colossale, et une fortune tellement colossale qu'il va finir par prêter de l'argent à Louis XV.
Voilà, il prête de l'argent.
Qui est complètement essorillé par la guerre de 7 ans.
Voilà. En fait, ce qui est assez compliqué, qu'on a essayé d'expliquer, c'est que la monarchie n'a pas de budget. Il n'y a pas de parlement à l'époque, il n'y a pas de budget. Donc, tous les souverains d'Europe ont besoin d'argent. Et comme il n'y a pas d'impôt voté, donc ils font appel à des financiers privés qui ne prêtent pas forcément leur propre argent, mais vont chercher de l'argent où il y en a. Laborde va le chercher en Espagne, bien sûr, c'est le fameux commerce des piastres, et le prête au roi de France avec des intérêts, bien sûr. Comme il se doit.
Il y a un moment où le roi va demander de l'argent au roi, enfin le roi de France demande de l'argent au roi d'Espagne, demande un prêt au roi d'Espagne, il lui demande 30 millions, je crois.
À peu près, voilà.
Et il envoie donc Jean-Joseph de Laborde négocier cette prêt. cet emprunt. Et le roi d'Espagne dit, écrit à Jean-Joseph de Laborde, nous ne prêtons pas d'argent au roi très chrétien, voilà. Mais à vous, j'envoie 10 millions.
Tout à fait, enfin, on prête à Laborde.
On prête Laborde déjà immédiatement, sa réputation, on rétrocède l'argent au roi.
Mais c'est lui qui est, de même que quand il sera banquier de la cour, c'est toujours sa signature qu'il il est au service du roi. Mais ce n'est pas comme aujourd'hui les trésoriers payeurs généraux, etc. Quand il prête l'avance de l'argent, c'est sa signature qu'il embauche, et ça veut dire que s'il doit plonger, c'est lui qui plonge, c'est pas l'État. Donc il prend des risques en permanence.
Alors c'est très curieux en même temps, parce qu'on a l'impression que cet homme, qui est un gestionnaire formidable, qui est un homme d'une honnêteté parfaite, quand il est confronté, déjà à l'époque, à l'univers politique, il a une espèce de rétractation. Hein, parce que quand on va lui proposer de devenir fermier général, il refuse.
Oui, il refuse. Mais ça va lui coûter très cher, parce que c'est à cause de cette acceptation qu'il sera décapité.
Oui.
Non, il refuse. Non, c'est un homme très intègre, c'est un catholique, bon père de famille, précis, méthodique, extrêmement travailleur. Et en dehors de ça, dans cet ouvrage, on a voulu aussi orienter l'ouvrage pour le présenter comme aujourd'hui, on dirait, un entrepreneur. Et c'est un entrepreneur, c'est un homme qui va entreprendre énormément, parce qu'il est aussi bon dans la finance, qu'il est bon dans le monde de l'immobilier, qu'il sera bon dans le monde du mécénat, et ça c'est très important.
Alors justement, il y a un paradoxe énorme dans le bonhomme en plus. Vous venez de nous dire, c'est un bourgeois catholique, très traditionnaliste, on le voit avec ses petits papiers, on l'imagine très bien comme ça, avec sa femme, qu'il a épousée à 36 ans.
À qui il a été marié sans la connaître.
À qui il épouse sans la connaître, bien sûr, à laquelle ça l'empêche pas de faire 6 enfants.
En fait, c'est Choiseul qui le marie, puisqu'il est le seul banquier catholique.
Choiseul
qui négocie l'alliance autrichienne, donc fait une série de mariages qui se finiront d'ailleurs par le mariage de Louis XVI avec Marie-Antoinette. Et on commence par marier, avant de marier les princes, on marie les banquiers. Donc on marie le banquier de la cour, le jeune banquier de la cour qui a 30 ans, à la fille de son homologue à la cour des Habsbourg. Premier mariage. Voilà, ils ne se connaissent pas, on les marie, ce sera d'ailleurs on dit vraiment, l'amour est un fruit du mariage. C'est un mariage merveilleux, on le voit, les dernières lettres qu'elle lui adresse avant qu'il monte à l'échafaud, et ils vont faire des enfants, enfin, etc. Et ça sera
Donc on a un personnage qu'on pourrait presque dire de nos milieux, comme nous disons ici dans mon émission, on dit de nos milieux, c'est-à-dire Cato tradit, une femme pas 36, il participe pas à la Gay Pride, enfin on voit très bien le personnage.
Non, il n'y a même pas une maîtresse.
Bon. Enfin, il crée. Et puis, vous parliez tout à l'heure avec vos interlocuteurs précédents sur la noblesse et ce monde-là. Laborde est un anticipateur dans la mesure où c'est par l'argent, par le travail, qu'il va créer une noblesse issue du monde de l'argent. Il anoblit quelque part le travail, ce qui n'est pas évident en rapport avec la religion catholique.
Mais alors, à côté de ça, ça c'est plutôt une position puritaine protestante. Hein,
voilà.
Mais à côté de ça, à côté quand même de ce personnage de bourgeois extrêmement classique, on dirait presque rassis, il y a quelque chose qui est incompréhensible, qui est un paradoxe incompréhensible, c'est cette passion pour les Lumières, et qui apparaît à travers, alors là on y vient, Méréville. Car d'abord il achète le château de
Saint-Simon,
la Ferté-Vidame.
Mais ça c'est plus la vitrine de ses
affaires. Qui n'est pas une folgueté d'ailleurs. Hein.
Voilà, non, ça c'est plus la vitrine de ses affaires, c'est pour montrer qu'il a du répondant. Enfin, c'est-à-dire que je crois que le château c'est...
Oui, qu'il achète le château.
Ce serait le yacht à Saint-Tropez aujourd'hui, c'est-à-dire en fait c'est vraiment montrer la puissance, j'ai les moyens, je reçois dans mon château, mais c'est pas vraiment lui-même. Méréville, il sera lui-même.
La Ferté-Vidame, ce qui est assez amusant, c'est que ça fournit une très bonne démonstration de l'ingratitude des grands, parce que le jour où le roi veut acquérir je ne sais plus quel château d'ailleurs.
La Ferté-Vidame, oui, pour le...
Non, il ne veut pas l'acheter lui-même, mais lui, il veut quelque chose. Rambouillet. Il prend Rambouillet, et en échange, il dit à son ami, l'autre voulait la Ferté-Vidame, alors lui, prenez la Ferté-Vidame, parce qu'il est facile, il fait des cadeaux avec des choses qui ne lui appartiennent pas, et donc il dit à Laborde, écoutez, vous allez vendre la Ferté-Vidame à mon ami, en échange, je vous colle un titre de marquis, ça ne me coûte pas cher, ça vous fera pas de mal. Et donc, enfin, je caricature, mais c'est un peu ça. Et c'est à ce moment-là que Laborde va acheter Méréville, dont il va faire son château. Et c'est là que je reviens à mon idée. Il va faire de ce château le monument de l'architecture des Lumières. Hein. C'est-à-dire, c'est un château rousseauiste à 100%.
Voilà, presque romantique déjà, on est dans le pré-romantique.
Pré-romantique, mais...
Quand vous dites château, je préférais que vous disiez propriété.
Oui, une propriété.
Parce que vos auditeurs pourraient croire en termes de bâtiment.
Non, non,
c'est... Méréville, c'est avant tout un jardin.
C'est une ancienne forteresse qui a été transformée
en maison
d'agrément.
Le bâtiment date du 12e, a été revu et corrigé, disons, tous les deux siècles. Et finalement, c'est Laborde qui finira par l'agrandir avec Barré comme architecte. Mais ce qui est intéressant, et on l'a retrouvé par la suite, lorsqu'on a essayé de retrouver des traces pour refaire le jardin, le bâtiment lui-même, le château, était considéré comme une fabrique au niveau du jardin.
Il venait, le château lui-même.
Oui, et on l'appelait Grosse Fabrique. Et ce qui m'amuse, c'est quand j'ai repris ce dossier, dans les années... 98 par là, je n'ai jamais parlé de château, parce que château c'est négatif, et je n'ai jamais parlé de parc, parce que parc c'est négatif, et pour essayer de vendre l'idée que la France récupère ce bien et le sauve, j'ai parlé que de jardin, ce jardin ça fait rêver.
J'ai pas compris où il se situait, ces deux...
C'est au sud des Tempes, c'est à peu près à 75 km de Paris, c'est une propriété qui est située en pleine Beauce, et c'est un endroit où il y a une petite vallée, et l'ensemble de la propriété, qui faisait déjà à l'époque 90 hectares, se niche dans une petite vallée ombragée au milieu du plateau de la Beauce, perdu au milieu de nulle part.
Alors ce qui est amusant, c'est que, en fait, c'est... Je sais que je vais vous choquer en disant ça, mais je le dis quand même. C'est une préfiguration, ça fait penser à une préfiguration, toute proportion gardée, de Disney World. C'est-à-dire...
Je n'osais pas le dire.
Voilà ce que je veux dire par là. Alors, on a l'impression...
Ça
ne vous choque pas du tout. Quand, je crois qu'on le dit à un moment. On le dit à un moment. Ouais. Que le jardin à l'époque, effectivement, François a dit bien le jardin, pas le parc, comme on dit le jardin Luxembourg ou le jardin des Tuileries, c'est bien effectivement les parcs d'attractions d'aujourd'hui. Sauf quand même, avec une petite différence, on n'y vient pas pour s'amuser.
Non.
On y vient pour méditer.
Pour méditer, voilà. Ouais. Et alors, il y a des choses qui montrent tout à fait l'esprit de l'époque. Bon, d'abord, il faut dire quand même que si c'est un Disney World, c'est un Disney World qui est peint par Hubert Robert.
Oui.
Hein, donc c'est parce que les tableaux d'Hubert Robert, qui était un ami de...
L'ami intime, on peut dire le confident.
Et même, je crois, ils ont été parents.
Il y a deux acteurs. Il y a Bélanger qui a réalisé auparavant le jardin de Bagatelle, qui va faire le plan de masse du jardin. Mm-hmm. Et puis ensuite, Bélanger étant un tout petit peu trop prétentieux et un peu cher, est carrément viré par Laborde. Et,
en plus fait
des bêtises parce qu'il construit une des très jolies folies aujourd'hui dites fabriques en français, qui est le pont de ruine. Le pont en pierre s'enfonce. Et donc, il considère que c'est une erreur d'architecture. Et par ailleurs, ensuite, il convoque Hubert Robert, et Hubert Robert va être le maître d'œuvre de cet endroit pendant plus de 7 ans.
Alors, il a fait un tableau vivant. Comme il faisait ses tableaux, il a fait ce jardin.
On est certain qu'il a peint des tableaux.
Et les tableaux qu'il a peints
sont... Pour les montrer à Laborde en lui disant, marquise, voilà c'est ce ça que faire. Vous voulez. Et ensuite, il a peint le jardin une fois fait.
Alors, Hubert Robert, c'est quand même c'est un enchantement. Là,
c'est
le peintre de Louis XV.
C'est le Cocteau du XVIIIe. C'est-à-dire qu'il y a tout l'imaginaire.
Mais je reviens sur Disneyland. Quand je racontais aux gens qui venaient visiter cet endroit où il n'y avait strictement rien, parce que quand j'ai récupéré cette propriété, il y avait 60 hectares d'arbres qui avaient été plantés par un brave concitoyen, et j'en ai fait enlever 12 hectares d'arbres, c'est-à-dire 2000 peupliers. Et en enlevant ces 2000 peupliers, oui, ça fait beaucoup d'allumettes, on a découvert qu'au pied du château, pour nos auditeurs, on pourrait raconter que Méréville, c'est comme une assiette à soupe. Et c'est comme ça que j'ai raconté cet endroit, y compris quand on y était sur place. Une bonne vieille assiette à soupe, avec dans le fond de l'assiette à soupe, une partie complètement inconstructible, parce qu'elle repose, et ils ne le savaient pas, nos chers ancêtres, sur quatre nappes phréatiques. Donc rien ne pouvait supporter. Mmh. Il y a vraiment 80 cm de croûte de terre et en dessous de l'eau. Et sur les bords de l'assiette à soupe qui sont plus solides, sont posées les fabriques, dont le château.
Ah oui, c'est ça.
Et pour revenir à l'idée de Disneyland, j'ai emmené les gens en leur disant, maintenant, comme dans Mary Poppins, on va sauter depuis l'endroit où l'on observe l'ensemble du jardin dans le dessin du Bert Robert. Et ensuite, on se promène bosquet par bosquet. Comme l'a très bien dit Jean-Pierre, le bosquet invite à la méditation. Ouais. Alors, il y a le bosquet de l'effroi, il y a le bosquet...
Et en même temps, c'est aussi, c'est pas mais c'est aussi un film. En fait, on y va comme on va au cinéma aujourd'hui. Je viens de voir un film.
Et alors, c'est un formidable outil de compréhension des mentalités modernes, si j'ose dire, de l'époque. Parce qu'il y a des choses... On comprend bien la rêverie, l'espèce de fantasme magorie intellectuelle, méditative. Par exemple, cet amour du progrès, déjà. Par exemple, qu'est-ce qu'il y a dans le jardin? Un cénotaphe à Cook. Mmh. Cook, qui est le grand voyageur qui va mourir dans les mers du Sud, on ne sait pas trop où. Et donc
il est mangé par des sauvages.
Cook, c'est quand même l'homme qui fait découvrir l'Arctique, l'Antarctique, le monde austral. Voilà. Et pour un marchand comme Laborde, dont tous les bateaux sillonnent partout, c'est vraiment l'homme qui dilate la planète. Donc c'est l'homme effectivement utile.
Alors, il construit un faux tombeau.
Et alors que la France est en guerre contre l'Angleterre.
Oui, en plus. Voilà.
Mais ça fait rien, Laborde rend quand même hommage à Cook. Il y a dans ce côté de cette Europe des Lumières, au-dessus des nations, cette espèce de sentiment de génie qui se retrouve. Enfin, c'est assez fascinant.
Moi, je dirais, je vais tout à fait dans ce sens. C'est pas un faux tombeau. Laborde était un fan de Cook. Alors, quand on fait un jardin, et même aujourd'hui, n'importe qui, vous, si vous décidez de faire un jardin, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez aller prendre dans le grand univers quelque chose qui vous plaît, et vous allez, et qui peut-être même peut vous effrayer, et vous allez essayer de le mettre dans votre univers à vous, qui est votre jardin. Et Laborde concentre dans son jardin tous les éléments qu'il estime essentiels. Et il va, à travers ses voyages, à travers ses bateaux, à travers ses connaissances, à travers les artistes qu'il va faire travailler, il va recréer un univers à lui complètement unique et qui fait, en plus de ce jardin qui est un jardin dit pittoresque puisqu'il est issu du monde de la peinture, une véritable entité complète de génie créatif.
Et c'est là où très marqué par l'esprit de l'époque. Par exemple, il élève un temple à la piété filiale.
Ça c'est tout à fait.
Ça c'est très
amusant. Ce jardin aussi, c'est ensuite le monde en miniature. Alors, ça, nous nous voyons ce soir, le 21 janvier. Je rappellerai la grande phrase qu'on prête à Louis XVI avant de monter dans le carrosse. A-t-on des nouvelles de la Pérouse? Et c'est intéressant. Ouais. Laborde est comme Louis XVI, un voyageur immobile dans ce jardin, mais obsédé par la connaissance du monde.
La Pérouse, sachant que deux fils de Laborde vont périr dans une expédition par la Pérouse.
Il y a aussi le monde entier contenu dans ce jardin. La vision qu'on a là, effectivement, au XVIIIe siècle. Vision idéale, mais où le commerce, la culture, le savoir se mélangent. Il n'y a pas ces différences qu'on fait maintenant. On dirait, tiens, vous êtes un commerçant, vous n'êtes pas un intellectuel. À l'époque, c'est pas du tout ça, c'est une tautologie. Oui. Et ça, c'est assez fascinant.
Je crois, Serge, que nous approchons de la fin de l'émission. Et j'ai envie de dire à ces messieurs qu'ils m'ont donné envie de visiter Méréville. Et je n'ai pas d'automobile. Comment est-ce que je fais?
Ah, ça, c'est une très bonne question. Il faut aller jusqu'à Étampes. Alors là, je pense qu'il y a des RER ou des trains. Oui. Sinon, il y a en tout cas un train jusqu'à Monerville, qui est une ville non loin. Et puis après, malheureusement, il faut y aller à pied ou avec une...
J'irai avec monsieur de Villemagne.
Je vous remercie. Alors, on a à peine effleuré le sujet, parce que c'est un personnage tellement énorme, et encore une fois, dont je reste absolument stupéfait qu'il ne soit pas plus connu, parce que il mériterait d'avoir un boulevard à Paris. Enfin, d'abord, il a payé, si jamais il a commis des erreurs, en tant que mécène de lumière, il les a payées de sa tête en étant guillotiné le 18 avril 1794, c'est-à-dire... C'est 18 avril, c'est à un jour près, la date de la mort de mon père, 160 ans plus tard.
Quand même, mais il a accepté sa mort parce que c'était un vendredi saint, il le dit.
Oui, c'est ça, absolument. C'est quand même un signe aussi.
C'est aussi le père de Nathalie Noël, la grande maîtresse de Chateaubriand. Voilà, je vous le sauveur de Choiseul.
On peut dire le titre.
Oui, alors le titre c'est...
Donc, de François d'Ormesson et Jean-Pierre Thomas, Jean-Joseph Delaborde, banquier de Louis XV et mécène des Lumières, aux éditions Perrin, 23 euros. Voilà. Et l'autre livre, François d'Ormesson, Pierre Wittmer, Au jardin de Méréville, promenade à la Belle Époque.
Ça, c'est un magnifique
édition
album.
Du Labyrinthe, 53,35 €, c'est-à-dire 350 francs.
Très très bel album qui vous permet de découvrir d'abord des tableaux magnifiques d'Hubert Robert, des photographies du château, pardon, des jardins et de la propriété. Merci d'avoir eu la gentillesse d'être venu
nous tenir
compagnie. Et...
Des auditeurs nous demandent pour la messe de Requiem pour Louis XVI à Paris. C'est bien le dimanche 25 janvier, oui. Mais elle n'est pas célébrée dans une église,
non.
Mais sur la place de la Concorde, à la place même de la guillotine, voilà, statue de Rouen.
Voilà, c'est la statue de la ville.
Et puis la conférence de Daniel Amiche ce soir à Saint-Nicolas, c'est probablement à 6h du soir.
Oui, donc c'est passé. Et merci, puis, à dans 15 jours, que Dieu nous garde.
Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie, programme national à Paris. Sur 95 MHz 6, à Caen sur 106, à Chartres sur 104.5, à Cherbourg sur 87.8, au Havre sur 101.1, au Mans sur 98.8, pour toute la France, l'Europe et l'Afrique du Nord sur le bouquet satellite TPS, et pour le monde entier sur le site internet tv-radio.com. Vous venez d'entendre le libre journal de Serge Lebeketch avec l'assistance de Victoria, diffusé en direct mercredi 21 janvier de 18 à 21h, en différé jeudi 22, dans la nuit de 2h à 5h et dans la matinée de 7h30 à 10h30. Ce libre journal a été réalisé par Franck. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libre, adhérez à notre association. Pour cette année, la cotisation minimum est de 40 euros. Elle comprend l'abonnement annuel au courrier de Radio Courtoisie. Envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce libre journal. Commandez les cassettes correspondant aux 3 heures de l'émission pour le prix franco de port de 20 euros ou 15 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. En rédigeant des chèques distincts pour la cotisation et pour les cassettes, vous faciliterez la tâche de notre secrétariat bénévole. Par avance, merci. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris.
Radio Courtoisie.